L'Angeur.
Bon lundi! Bienvenue à l'émission L'Angeur sur les ondes de Boulevard 102.1. Il est présentement midi 2. À la météo, il fait 1 degré. C'est un ciel ennuagé, avec des petits brins d'éclaircies. Et c'est ce qu'on prévoit pour aujourd'hui, avec possibilité peut-être d'averses de neige. Avez-vous vos pneus d'hiver? Avez-vous pelleté en fin de semaine? J'ai pelleté hier.
T'as pelleté quoi?
Mon patio. Ouais, j'ai pelleté un peu dans l'entrée aussi pour que quand le déneigeur passe, qu'il ramasse le gros mâton.
T'avais-tu de la glace?
Non, j'avais pas de glace. Puis je me rends compte que je suis peut-être bizarre. J'aime ça pelleter.
Non, t'es pas bizarre. Au début de l'hiver... Ben, à la fin de l'hiver, à vous, t'es
allé. Oh, à la fin de l'hiver, je vais être heureux, là. À la fin de l'hiver, je vais être comme n'importe qui, là. Quand en mars, il va nous retomber une tempête de 25 cm,
je vais non, faire, non, non. Hey, là. Là, c'est assez. En mars, des fois, c'est en avril. La gang de week-end, tantôt, parlait autour d'un bureau. Ouais. Et il y avait quelqu'un que je n'aimerais pas qui disait: moi, ma blonde, elle veut que je déneige tout le temps, tout. Il faut que le patio soit tout déneigé, puis là, sinon, ça va pogner, puis ça va glacer, puis ça va. Moi, je suis tellement de l'école de sa blonde, là. C'est comme, à un moment donné, tu perds le contrôle.
Ah ben, t'as raison.
Faut pas jamais que tu perdes le contrôle.
Ah non, faut jamais
que tu... Il disait, ouais, mais on n'aurait rien qu'à mettre du sel. Mais oui, mettre du sel sur ton patio.
Non. Moi, c'est pour ça que le patio aussi, je suis un déneigeur de patio. Je veux pas perdre le contrôle de mon patio.
Si tu veux un patio pendant l'hiver, let's go. Si ton patio est une sortie de secours aussi, CV va dire déneige.
Ouais. Bravo.
Mais la couche de glace en dessous là, qui va se faire, là, ça va être... des fois, une coupe de pouces.
Le
sel va rien faire. Je suis complètement d'accord. Ah ouais, gratte ça.
C'est gratte avant que ça pogne en pain.
Ouais. Clairement.
On est tous d'accord. Quelle belle unanimité.
Ah, c'est fou.
On vient de régler bien des problèmes dans des couples.
Et là, parlant de neige, il n'y a pas de neige à l'horizon pour cette semaine. 3 degrés nuageux demain, 2 degrés alternant soleil et nuages mercredi, 0 degrés alternant soleil et nuages jeudi. Donc, vous pouvez ranger vos pelles. Il n'y en aura pas de neige cette semaine. Mesdames, vous avez passé un beau week-end?
Ben oui.
Oui?
Oui, mais... Ouais, c'est parce que je vais te dire la vérité, là. Moi, j'avais deux personnes. Ben, j'ai deux personnes dans ma vie qui ont décédé en fin de semaine.
OK. Mes sympathies.
C'est gentil. C'est...
Je te ferai un gros hug tantôt.
Je pense plus, mettons, aux gens qui sont concernés très, très, très proches, mettons, la famille et tout ça. Puis, c'était ma première expérience d'aide médicale à mourir, dans le fond, d'être témoin. Puis, je trouve pas encore les mots sur ce que j'ai vécu. Je sais pas encore comment a été mon rapport avec la mort là-dedans. J'ai trouvé ça beau et triste. Énormément triste en même temps, mais si beau comme départ où tout le monde peut se dire bye, puis jaser, puis des semaines avant. On en reparlera, mais j'essaie encore de me faire une tête là-dessus.
C'est ce qu'on va faire, je te laisse cogiter là-dessus, puis quand tu es prête, on en reparle en nombre.
Merci, parfait.
Je pense que faut saisir le bon moment pour en parler, puis des fois, juste en parler un petit peu trop tôt, ça peut peut-être amener...
Étrangement, tu sais, c'était samedi, puis j'ai encore... un besoin de me positionner là-dedans. Mm-hmm. Si jamais vous voulez 418-971-1021, si vous l'avez vécu et tout, là, je vous lirai aussi entre-temps.
Oui, et 418-971-1021 également, si vous voulez envoyer des belles sympathies à Pascal CV, allez-y. Évidemment, pour nous écouter aussi, l'application Boulevard BLVD 102.1 disponible sur App Store et Google Play Store. Moi, fin de semaine, c'est drôle, hein, t'es comment la vie, moi, je dis toujours, elle est remplie de petits bonheurs. Puis j'ai vécu un beau petit bonheur vendredi d'aller à la lutte avec Val et Edou. Puis j'ai passé une belle soirée avec mon ado et ma blonde.
C'était où? C'était-tu au Centre Horizon?
Au Centre Horizon, la NSPW. Lou O'Farrell est redevenue une gentille. Moi, Lou O'Farrell, c'est ma lutteuse. Donc le Phoenix, elle s'est réconciliée avec Toxic. Ils se sont serrés dans leurs bras. C'était beau. C'était un beau moment. J'ai d'ailleurs écrit à Lou pour lui dire: waouh, quel moment de lutte incroyable. Et hier, j'ai passé une journée avec ma blonde. Mais tu sais, déjà nos restos, fait des commissions, fait un peu de bouffe.
Un dimanche.
Moi, je vais pelleter. Oui, on a fini ça un souper chez ma mère parce que demain, c'est la fête de mon beau Edou. Il va avoir 16 ans.
OK, tes gars sont quand même collés dans leurs anniversaires.
Fait qu'on y avait acheté un gâteau. Mais maudit que j'aime la vie quand elle est simple de même.
Quand tu te lèves, que tu sais pas trop ce que tu vas faire, puis qu'avoir du temps pour faire tes commissions, bien plaisant, t'es pas dans la poche.
On cuisinait. Ben, c'est plus Val qui cuisine. Là. Moi, j'ai dit: qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Fait que là, je disais à la blague, je suis ton plongeur sexy parce que je l'avais à vaisselle.
Ah.
Mais j'avais...
Ça dépend pour qui.
Ouais,
hein?
C'est ça, exactement. Mais on avait une petite coupe de vin dans les mains.
Ouais.
On faisait la cuisine. Puis je regardais ma blonde, je dis: hey, je l'aime donc bien, cette femme-là.
Ah, c'est beau, ça, Jeff.
T'es le beau petit bonheur simple.
Je trouve que ça fait le pont sur ce que moi, j'ai mentionné de ma fin de semaine.
C'est ça. J'ai passé des beaux moments. Donc, plusieurs gens qui t'envoient les sympathies, Pascal.
C'est gentil. Antonine, t'as-tu suivi la politique en fin de semaine? T'as joué du piano? T'as été à la maison? Ouais. T'as-tu fait ton patio?
Ben là, tu m'as parlé de manteau.
Oui, j'ai fait le ménage de garde-robe. C'est super intéressant puis vraiment léger à comparer de tout ce que vous venez de dire.
Mais c'est essentiel.
Là, les gens à la maison le voient pas, mais je faisais des signes. Genre, demandez-moi pas ma fin de semaine, c'est tellement plate.
Parce que moi, elle est plate, ma fin de semaine.
J'ai fait le ménage de garde-robe. Puis mon chum avait, notre jour, il y avait 25 manteaux. Fait que ça a créé une petite chicane de coupe parce que j'ai dit, ça serait-tu possible d'arrêter d'acheter des manteaux? Voilà, vous savez tout de ma fin de semaine extraordinaire.
C'est une obsession vestimentaire, les manteaux, je l'encourage.
Non, encourage-le pas, s'il vous plaît.
Bon, ben tant qu'à ça, on va passer au caucus, Anto, t'es d'accord?
Ah oui, donc.
Le caucus.
Le caucus. Le caucus. 102-1. Voici Antonine Iaccarini.
Anto qui ne voulait pas parler de ses manteaux, Colin. Mais il y a une personne, par exemple, qui veut parler d'un sujet important aujourd'hui, et c'est Mark Carney et le budget, et on l'écoute à l'instant même.
Le budget de 2025 est notre nouvelle stratégie économique pour répondre aux défis actuels et en sortir plus fort. Un plan qui s'appuie sur nos forces, nos valeurs et notre histoire d'aventuriers, de preneurs de risques et de bâtisseurs. Un plan pour un Canada confiant qui reprend le contrôle de son avenir en catalysant des investissements générationnels afin de protéger nos communautés, nos frontières et notre mode de vie.
Bon, Anto, on a un gouvernement minoritaire qui s'est comporté avec le budget comme un gouvernement majoritaire. Donc, qui aujourd'hui va avoir envie d'aller aux toilettes, va avoir un problème informatique, les enfants vont être malades, va devoir rester à la maison? C'est qui, là, les deux, trois qui voteront pas, là?
Écoute, je sais pas comment ça va finir ce vote-là, mais c'est quand même un suspense intéressant parce qu'on est rendu le jour même et honnêtement, on ne sait pas exactement comment les choses vont se terminer. On pense que le budget va passer. Parce qu'il n'y a personne qui a vraiment envie d'aller en élection. Juste un petit rappel de la composition de la Chambre. Le gouvernement est minoritaire. On parle d'un budget qui est à la fois très déficitaire, mais en même temps austère. Donc, tu déplais à la droite, tu déplais à la gauche. Il n'y a rien d'extraordinaire pour le Québec. Hein? Si on pense au Bloc québécois qui aurait pu aller chercher certains gains, c'est pas extraordinaire. Puis même le Bloc nous dise dans les corridors que... Il n'y a personne qui les a consultés véritablement avant de faire ce budget-là. Le Parti libéral, qui est à quelques personnes d'avoir sa majorité, donc là, on a eu une défection.
Est rendu à deux avec D'Entremont qui a traversé
D'Entremont a traversé. On a Matt Généroux qui n'a pas quitté finalement, mais qui dit quitter un jour, mais on ne sait pas trop. Mais il n'était pas là la semaine passée pour voter sur... Là, c'est des bebelles un peu parlementaires, mais après le dépôt d'un budget, on dépose un amendement. Après ça, il y a un sous-amendement, puis il faut voter là-dessus. Puis il faut bien voter parce que ça, c'est des votes de confiance aussi. Et Matt Généroux était absent pour le vote sur le sous-amendement des conservateurs. Bref, j'ai l'impression qu'on ne le verra pas beaucoup dans les prochaines semaines. Que Pierre Poilievre va éviter une vraie défection, mais que c'est un peu une défection passive, finalement, du côté de Matt.
Donc, lui, il serait absent. Fait que ça veut dire qu'il en reste un ou deux à être absent pour que le budget passe.
Mais là, c'est deux parce que le président de la Chambre ne vote pas. Là, on a su qu'Elisabeth May allait voter pour le budget, parce qu'il y a une députée du Parti vert aussi qu'il faut compter. Mais le NPD, on ne sait même pas exactement comment chacun va voter.
Oui, mais c'est ça. Parlant du NPD, je te fais entendre ce que Don Davis a dit à la Chambre des communes la semaine dernière, justement, concernant le budget de Mark Carney du Parti libéral du Canada.
This government's budget fails to deliver the transformational change promised and fails to meet the moment. It fails to provide any relief right now. For the millions of Canadians suffering through an affordability crisis, 60% are having trouble meeting their monthly expenses. Half are using credit cards or borrowing money for daily needs, paying interest rates of 19% or more. Why did the Liberals fail to provide concrete measures to help the millions of Canadians who need help now?
T'es en train de déchirer sa chemise comme de quoi le gouvernement libéral ne tient pas compte de 60 % de la population qui est endettée, ne tient pas compte du petit travailleur dans son budget. Fait que lui, il pourra pas être absent aujourd'hui ou voter pour. Là. Va falloir qu'il soit conséquent avec la sortie qu'il a fait.
Ben, être conséquent, tu sais. C'est-tu vraiment important, là, Jerry?
Oh, Anto, c'est le cynisme. Tu fais arriver le
cynisme en politique. D'habitude, je ne suis pas trop cynique, mais là, sur ce vote-là, je le suis. Parce que le Parti conservateur aussi déchire sa chemise.
C'est clair.
Dit que c'est épouvantable,
Parti ce
budget-là.
Québécois aussi, là, j'avais fait entendre des extraits des François Blanchet la semaine dernière. Là. Ben, il y a deux semaines, parce que le budget était déposé il y a deux semaines, le 4 novembre, que là, il n'y a rien pour le Québec là-dedans, plein d'industries forestières.
Donc là, si tu as des gens qui, tantôt, tu disais, vont aux toilettes, sont absents, il y a un petit bug électronique, peu importe. Le parti ne peut pas dire... Tant qu'à y être, soyez honnête. Dites, on s'est organisé pour que le budget passe parce que les Canadiens ne veulent pas d'élection, mettons. C'est de même que je dirais. Puis honnêtement, les Canadiens ne veulent pas d'élection.
Mais non, on ne veut pas retourner en élection.
Pense-y, retourner en élection tout de suite. Pourquoi? Puis je vais aller prendre un parti à la fois. Là.
Okay? Vas-y donc.
Donc, qui aurait le plus intérêt à partir en élection?
Bien, sûrement les libéraux, parce qu'ils pourraient peut-être aller chercher une majorité, mais encore là, il n'y a pas beaucoup de résultats avec les libéraux depuis l'élection. Là. Mark Carney nous avait dit « Je suis l'homme pour négocier avec Donald Trump. » Il n'y a pas de tarif qui a tombé, il y en a encore plus. Là.
Non, ça, en plus, les libéraux savent très bien. Ils ont battu le fer pendant qu'il était chaud le printemps dernier. Les gens ne connaissaient pas très bien M. Carney. Ce n'est pas un excellent campaigner, on va se dire la vérité.
Non, t'es un deuxième débat, Carney-Poilievre. Les gens ne seront pas indulgents avec Carney comme ils l'ont été au mois d'avril passé.
Exactement. Donc, les libéraux, c'est les moins pires, je dirais, parce qu'ils sont quand même premiers dans les sondages. On va dire ça comme ça. Ensuite, le Bloc, dans les sondages, c'est similaire. Bon, on va aller chercher un nombre peut-être similaire de députés, puis encore là, il y a toujours des risques d'en perdre, on ne sait jamais. Des élections, ça coûte cher. Donc, partir en élection pour aller chercher le même résultat, honnêtement, leur sortir les pancartes, là, puis ah ouais, là, ça tente à personne. Le NPD, c'est terrible. Je veux dire, ils n'ont pas une scène, ils n'ont pas de chef.
Ils n'ont rien.
Écoute, ce serait catastrophique pour eux. Et du côté de Pierre Poilievre, ben, en ce moment, il y a des doutes sur son leadership. Il y a un vote de confiance qui s'en vient. Il a besoin d'un vote de confiance très, très fort pour faire taire les doutes qui ne sont pas exprimés nécessairement toujours publiquement. Mais on a des députés en ce moment, des conservateurs, qui parlent off the record. Et on sent qu'il y a un petit doute qui plane dans la tête des gens, mais tant qu'on est en situation de gouvernement minoritaire et que tu as des élections qui te pendent au nez à tout instant, est-ce que tu vas vraiment commencer à remettre en question ton chef? Tu te dis, ben non, on peut partir en élection n'importe quand. Mais s'il fallait que Mark Carney réussisse à aller chercher d'autres députés ou qu'il y ait d'autres démissions au sein du caucus conservateur, là, tu te dis, bon, on est pogné de toute façon 3 ans, 4 ans avant les prochaines élections, alors on a le temps en masse de se trouver un meilleur chef que Pierre Poilievre. Ce serait catastrophique pour lui.
Clairement. Le Bloc québécois, j'ajoute, et tu me corrigeras si je me trompe, veulent pas partir en élection non plus parce que là, c'est l'année du PQ. C'est l'année pour se préparer pour la prochaine campagne électorale. C'est l'année du livre bleu.
C'est le livre bleu, puis on va en reparler plus en détail tantôt, mais il faut comprendre que les militants du Bloc puis les militants du Parti québécois, souvent, c'est des vases communicants, donc évidemment, tu ne veux pas les fatiguer. Il y a aussi une élection partielle qui s'en vient dans Chicoutimi. Donc, effectivement, là, en termes de ressources, c'est pas super intelligent là, de repartir en élection pour le Bloc québécois. Par contre, ce serait pas la fin du monde pour le Bloc. Tu sais, si d'aventure, il y avait une erreur, là, puis on tombait en élection, c'est pire pour Pierre Poilievre. Parce que vraiment, de partir en élection avec des gens qui doutent de toi, là, c'est pas un bon état d'esprit. Alors que le leadership de François Blanchet est bien installé, somme toute.
T'as entièrement raison. Parlant de leadership de Pierre Poilievre, il a dit qu'il ne changerait pas.
Non, my plan is to continue to lead and be the only leader in the country that's fighting for an affordable Canada.
Non, je ne changerai pas. Je suis le seul leader au Canada qui peut travailler pour, justement, là, tu sais, il parle de rendre le Canada abordable pour les familles. On le sait, son plan, une belle maison dans un beau quartier sécuritaire, qui est un beau plan, là, soit dit en passant.
Moi, je veux dire, il y a beaucoup de jeunes qui se demandent s'ils vont avoir une belle maison dans un beau quartier.
Ben, exactement.
Moi, je trouve que c'est une bonne ligne.
Oui.
Ce qui n'est pas une bonne ligne, c'est de dire que Justin Trudeau devrait être en prison présentement.
Ouais, c'est ça.
Puis là, ça vient tout effacer le reste. C'est ça le problème avec Pierre Poilievre, c'est que il est très cohérent. Moi, je pense qu'il ne pouvait pas dire « Ah, je vais changer ». Tu peux pas faire ça, là.
Ben
non. C'est comme d'avouer, finalement, que tout ce que tu dis depuis 3 ans, ça vaut rien. Tu peux pas faire ça. Par contre, tu peux faire attention à ce que tu dis. Parce que, là, je vais citer Churchill, mais on est esclave des mots qu'on a laissés échapper. Ceux qu'on a à l'intérieur de notre tête, ça nous appartient. On a le contrôle sur eux. Mais une fois que tu as dit quelque chose...
C'est bon, ça.
Et Churchill. Il avait dit des bonnes citations
c'est
tout le temps.
Ça,
Donc, pour Pierre Poilievre, évidemment, ce qui a fait mal aussi, c'est qu'il y a des conservateurs québécois qui sont sortis pour des anciens, là, surtout, parce que les députés sont solidaires pour l'instant, mais qui sont sortis pour dire que c'était pas la bonne personne. Mais c'est qui la bonne personne? Parce qu'avant de tirer sur le pilote dans ton avion, là, faut que tu t'assures d'avoir un autre pilote dans l'avion.
Ben, c'est ça, puis ça serait
sinon,
qui?
Sinon, tu plantes ton avion.
T'es, parce que là, on s'est déjà planté avec Aaron O'Toole, on s'est déjà planté avec Andrew Scheer. Il n'y a pas de Stephen Harper à l'horizon. T'es, ce que je parle, t'es d'un chef qui serait très fort à l'intérieur des rangs des conservateurs. Fait que c'est qui? Ça peut pas être Pierre Paulus. Ça peut pas être Gerald Deltel. T'es, je pense à des députés ici au Québec.
Non, puis de toute façon, je veux pas être plate, là, mais ça sera probablement pas un Québécois, là, le prochain chef du Parti conservateur. Il faut comprendre aussi que le Parti conservateur a beaucoup changé. À partir du moment où Jean Charest a perdu la dernière course à la direction, et de loin, là, c'était pas serré, là. Ce parti-là s'est transformé. C'est plus le parti de Mulroney. On est
d'accord. Non, non, en effet.
Donc, c'est beaucoup les gens de l'Ouest qui ont le contrôle sur le parti, et ça prendrait quelque chose de très gros et de très organisé pour tasser vraiment Pierre Poilievre. Donc, pour l'instant, ce qui se passe avec le Parti conservateur, c'est pas dans le but de le remplacer par quelque chose de mieux. C'est de la critique, mais qui finalement, on tire un peu dans la chaloupe. Et ça contribue effectivement à nuire à Pierre Poilievre et à nuire au Parti conservateur. Mais est-ce qu'un tien vaut mieux que deux, tu l'auras? Donc, un vote de confiance fort, parce que sa base à Pierre Poilievre est encore avec lui. Là. Il faut pas penser là, qu'il y a une fronde là, ouverte. Mais ces doutes-là doivent être dissipés. Sauf que ce qui est le plus dur en politique, c'est que t'es toujours plus populaire quand t'es nouveau. Et plus tu avances, plus tu es usé. Si t'es au pouvoir, tu t'uses très rapidement. Mm-hmm. Mais même dans l'opposition, si tu perds une élection en étant dans l'opposition et tu restes chef de l'opposition, ça te coûte cher en usure aussi. Puis c'est ce qui se passe avec Pierre Poilievre.
Ouais,
c'est dur de remonter.
Corrige-moi si je me trompe, mais c'est rare qu'un chef va venir perdre une élection quand il était en avance comme ça dans les sondages et rester. Donc, c'est pour ça qu'il y a du grenouillage à l'heure actuelle. C'est parce qu'il y a énormément de conservateurs qui se disent « Hey, écoute, je vois pas comment je vais gagner avec ce gars-là. »
On s'entend-tu aussi que si Pierre Poilievre avait gagné le printemps passé, là, personne ne demanderait de changer sa personnalité.
Ben non.
C'est vraiment la défaite. Et quand tu regardes en termes de vote populaire, en termes de résultats électoraux, c'est pas Pierre Poilievre qui a perdu la dernière campagne. Non. C'est le NPD qui s'est écrasé et dont tous les votes se sont transférés aux libéraux. C'est pas Pierre Poilievre qui a perdu ses électeurs.
Ben non, parce qu'il a fait un score record avec au-delà de 40 % du vote. Là. De mémoire, c'est 41,2.
Les gens ont eu peur. Ils ont eu peur de Trump. Ils ont peut-être eu un peu peur aussi de Pierre Poilievre.
Oui.
Ils ont voté plus stratégiquement, se sont pincé le nez pour plusieurs des gens plus à gauche pour aller voter pour Mark Carney, alors qu'il n'est pas à gauche pantoute. Et ça a fait en sorte que dans plein de circonscriptions, ça a fait la différence, évidemment. Écoute, le NPD, les circonscriptions à travers le pays, dans lesquels ils ont réussi à avoir en haut de 10 %, ça se compte sur les doigts de deux mains.
Hey, t'imagines.
C'est complètement fou, là.
Ben Jack Mansing a fini quoi? Quatrième, je pense, dans son...
c'est une débandade.
Ah, ça a été la catastrophe.
Ça, c'est pas la faute de Pierre Poilievre. En tout cas, bref, si j'étais conservatrice, que je ne suis pas, mais si j'étais conservatrice, je me demanderais vraiment, est-ce que j'ai mieux pour piloter mon avion présentement? Mm-hmm. Et avant de tirer sur mon pilote, est-ce que je me suis assurée d'avoir une solution de rechange?
D'avoir une relève, c'est ça. Il n'y en a pas qui pointent à l'horizon. C'était le congrès du PQ cette fin de semaine, Anto. Et on a parlé énormément de livres bleus. On a parlé de monnaie québécoise. On a-tu trop parlé de souveraineté dans ce congrès-là?
Bien, le PQ, c'est un parti souverainiste.
Oui.
Qui promet un référendum dans un premier mandat.
Exactement.
Donc, je vois pas pourquoi ils parleraient trop de souveraineté.
Puis en plus, ils le disent depuis des mois, même sans être élus. Puis, sais-tu la question actuelle? Moi, la réponse, c'est oui, là. Tous les partis au provincial en jasent, ça va même au fédéral.
Oui, oui, ils ont vraiment créé un mouvement. Mais il y a eu quelques points qui ont été perdus dans les sondages pour Paul Saint-Pierre Plamondon, avec le dernier léger qu'on a vu il y a quelques jours. Là, on peut faire des hypothèses sur pourquoi on a perdu ces points-là. Est-ce que c'est parce que Paul Saint-Pierre Plamondon a montré un côté un petit peu plus grognon, hein, parce que là, il se pogne avec des chroniqueurs, puis là, il fait flèche de tout bois et tout ça? Ou est-ce que, finalement, les gens commencent à craindre un petit peu cette histoire de référendum? On persiste et signe avec le référendum dans un premier mandat. Moi, je pense que c'est un peu des deux, mais je pense qu'il y a une troisième explication. C'est que peut-être aussi que les autres partis ont été moins mauvais. C'est-à-dire qu'on est allé rechercher en quelques points. Duhem est allé rechercher des points.
Ouais.
Après, Arthabaska, il en avait perdu. Ça a
les,
été plus dur.
Les libéraux profitent beaucoup de Marois Risky à l'heure actuelle à l'Assemblée nationale, qui est très bonne pour ramener François Legault dans ses derniers retranchements. Donc, on est allé chercher un petit 2 points-là.
La CAQ est allée même rechercher un peu. Donc, il y a un peu de tout ça. C'est comme si le buzz débuzzait un petit peu autour de Paul Saint-Pierre-Plamondon. Encore une fois, le temps. Les boss, ça ne dure pas à l'infini non plus. Mais bon, tu vois que le PQ a vraiment décidé de briser les tabous. C'est-à-dire, on s'assume, on s'assume, on s'assume. Avant, le mot référendum...
Ça, c'est positif.
Ben oui, c'est positif. Parce qu'avant, écoute, moi, à mon époque, quand je travaillais au PQ, là, quand on faisait un conseil national, là, on se disait « Hey, qu'est-ce qu'on va donner aux journalistes pour pas qu'ils se mettent à nous parler de la date du référendum, de la monnaie et de l'armée? » Okay? C'était le défi. C'était comme un jeu d'évasion. Là. Puis là, si on n'avait rien à leur dire, ils allaient se promener des militants. Puis ils allaient leur poser ce genre de questions-là.
Militants?
Ben, ils militent, eux autres. Puis un pays. Là, ça partait dans tous les sens. OK? Donc, à mon époque, si tu finissais un conseil national puis que tes titres, c'était « Le PQ veut une armée québécoise », on pleurait dans nos bureaux. Là, on était là,
et
là,
merde,
là, là,
c'est et, qu'on ben, et voilà.
Donc, là, on s'est dit, ben, pourquoi on a peur de ça? Parlons-en nous-mêmes.
Oui.
Et qu'on fasse le message, tant qu'à...
Ben, oui.
Ouais. J'ai posé la question ce matin à Pascal Paradis, qui était en entrevue à Marceau le matin. Est-ce que vous avez parlé d'autre chose que la souveraineté? Voici ce qu'il m'a dit.
On a fait les deux. On a parlé pendant 2 jours complets des PME et des régions. On a fait l'annonce aussi le samedi matin parce que ça, c'est une promesse. Puis je peux vous dire, les médias, hein, vous êtes quand on vous hier en point de presse et samedi en point de presse, les journalistes nous posaient déjà des questions sur les prochains chapitres. Puis là, est-ce qu'on pourrait vous parler de ça? Puis on dit, attendez, on s'en vient avec les premiers chapitres. Donc, on dévoile la vision d'un Québec souverain. On a eu l'occasion samedi matin, mais pendant 2 jours, on a parlé des PME et des régions.
Ça, c'est clair que les médias s'abreuvent au référendum.
Ben là,
on veut entendre parler de référendum, on veut entendre parler du livre bleu, puis là, on veut cette fameuse guerre bleue contre rouge aux prochaines élections.
Tu veux une bonne
ça
histoire?
Ça va vendre des copies, on est content.
Toi, là, si t'allais au Conseil national du PQ, là... Tu ferais-tu ton texte sur les PME puis les régions?
Ben voyons donc, je ferais mon texte là-dessus, moi, Anto. Écoute, bon.
Le gouvernement de la CAQ a utilisé le Fonds de développement économique dans lequel
il y a des milliards
chaque année pour faire des subventions discrétionnaires, notamment, surtout en fait, à des entreprises étrangères. Tout le monde est au courant des fiascos que ça crée, des gaspillages que ça crée. Le North Pole étant l'espèce de symbole. Il n'y a pas juste notre vote. Nous, on dit
ces milliards-là, PME,
au lieu de continuer à les gaspiller, on va les utiliser pour alléger la
fiscalité de nos entreprises
partout au Québec et notamment en région.
Pourquoi nos journalistes ne parlent pas de ça?
Ben, maudite bonne question.
Pourquoi?
Parce que c'est plat.
Mais je le sais, parce
ben
que si
ça.
Tu fais un texte là-dessus, personne ne le lit. Mais quand tu dis « Le Québec va avoir sa propre monnaie », et crime, là, le monde s'enflamme.
C'est la course au clic. C'est ça. Puis, pour vrai, je le sais que le PQ a fait ses devoirs, qu'ils ont parlé d'économie, qu'ils ont parlé des priorités des Québécois, mais c'est pas intéressant. Mm-hmm. Les journalistes, ils veulent parler de référendum, ils veulent parler d'armée québécoise. Puis, ils ont l'habitude, pour vrai, que ce soit controversé. Puis ça l'était, et ça l'est moins qu'avant. Il y a aussi, il faut quand même le dire, une volonté de la part du PQ de rendre le projet plus concret. Puis c'est toujours l'éternel dilemme pour le PQ, c'est si on garde ce flou, on se fait dire c'est flou. Si on est précis, on a l'air d'une gang d'illuminés, là, imaginez la monnaie québécoise, puis là, le monde rit, ça va-tu être René Lévesque, c'est Cernes, ha, ha, ha.
Oui.
Ben oui, mais là...
Ben en effet, moi, matin, j'ai René Lévesque, Maurice Richard, Jacques Parizeau. Sinon
tu devrais être sur le comité, d'ailleurs, pour décider qui va avoir...
J'aimerais
sur
ça, ça
sous.
Serait le fun. Non, mais c'est vrai ce que tu dis, que sont pris dans une solution, je trouve, perdant-perdant.
Puis, oui.
Parce que s'ils n'en parlent pas beaucoup, le monde va dire, ben c'est ça, vous nous arrivez avec ça, puis
c'est
on comprend même
pas
votre affaire, c'est tout croche. S'ils arrivent avec du concret, ben là, il y a des gens qui vont dire, ben là, voyons donc, crime... Et la monnaie, ça va dépérir, ça, cette monnaie-là.
Comment elle va valoir, cette monnaie-là?
Puis...
Ça, c'est la peur. Mais l'autre option, c'est la dérision. Parce qu'on se faisait tourner beaucoup en dérision. J'ai vécu beaucoup ça à mon époque, quand la souveraineté était moins hip, on va dire ça comme ça.
Où
on riait carrément des gens qui parlaient de souveraineté. Une armée québécoise, poahaha, là, ça faisait rire. Mais d'un côté ou de l'autre, il y a des conséquences à parler c'est concrètement du projet de souveraineté. Un des éléments qui revient régulièrement, c'est si le Québec devenait un pays, il faudrait recommencer à zéro pour toutes les ententes internationales, les conventions, les accords. Et ça, ça a créé de l'anxiété chez plein de gens, avec raison. Il ne faut pas se leurrer. Hein. Séparer une province d'un pays, ce serait administrativement lourd. Là, je veux dire, il y a beaucoup difficile. De choses à régler. Donc, le PQ a décidé de dire, ben là, au lieu de balayer ça sous le tapis, puis de faire semblant que ça n'existe pas, on va mettre lumière là-dessus. Donc, tu sais, quand tu mets la lumière sur quelque chose, d'habitude, ça fait moins peur que quand c'est dans le noir, dans le fin fond d'une boîte, puis qu'on essaie de faire semblant que ça n'existe pas. C'est la stratégie, mais elle est coûteuse quand même, parce que comme tu dis, c'est un peu, c'est damn if you do, damn if you don't. Mm-hmm. Et ils ont choisi leur avenue à travers tout ça. Et je pense que la stratégie, c'est de dire, écoutez, par exemple, si la souveraineté est à 35 %, c'est un 35 % solide pour le PQ. T'as pas besoin d'avoir 50+1 pour accéder au pouvoir. Mais si tu commences à être chambranlant sur la souveraineté, là, ton 35% devient plus clair-clair. Tu leur donnes la permission un peu d'aller voter pour n'importe qui parce que t'es plus sûr qu'il va y avoir un référendum ou pas. Puis là, on se met à parler d'autres choses. Puis là, c'est, tu sais, dans le fond, ton solide devient un peu mou. Puis peut-être que tu vas aller chercher des nationalistes non souverainistes mous, mais c'est peut-être... Donc, je pense qu'il compte vraiment sur ce 35%-là solide.
Je comprends très bien. Qu'est-ce que tu penses? Puis je termine là-dessus de plusieurs chroniqueurs qui disent « Ouais, il devrait démontrer à la place son cas de gérer à la province. » Moi, je pense qu'il faut qu'il démontre les deux. Là. Puis ils le font avec en disant « Regardez ce que ça va être, un Québec souverain géré par nous autres. » Tu comprends qu'ils vont gérer à la province comme ça aussi.
Oui, puis là, je veux juste dire que si le Québec devenait un pays, le PQ ne devient pas le parti d'État là, comme en URSS, puis après ça, ça va être gouverné pour toujours par le PQ.
On ne vient pas avec un régime autoritaire?
Non, c'est ça, non.
Ça ne vient pas avec, on va continuer à être une démocratie.
Puis ça me fait rire, parce que le monde de Québec solidaire, la partie, en fait, des électeurs de Québec solidaire qui voteraient oui, parce qu'il y en a beaucoup qui voteraient non, et qui votent pour Québec solidaire, puis qui disent, ben là, si on fait un pays, il ne faut pas que ce soit n'importe comment, il faut que ce soit un pays qui est ouvert, il faut que ce soit un pays environnemental, il faut que ce soit inclusif, il faut que ce soit de gauche. Non, on fait la souveraineté et ensuite, on fait des élections. Il faut que tu fasses une autre, il va y avoir une période de transition, puis après ça, tu as des élections, puis vous votez bien pour qui vous voulez.
Ben, c'est ça.
Et by the way, c'est pas parce qu'on fait un pays que tout va être parfait demain matin, et je ne pense pas qu'il faut que tout soit parfait non plus pour faire le pays.
En
dans
effet.
Le sens que le pays dans lequel on vit actuellement n'est
il
pas parfait,
parfait
non plus.
Aussi. Exactement. Il y a ses beautés et il y a ses moins bons côtés, comme un vote de budget de 82 milliards de déficit.
Mais on reste dans le Canada, pourquoi? Pour les finances publiques qui nous rassurent.
Ben parce qu'on va ramasser bientôt une grosse dette, si on ne sait pas.
Oh, il faut rembourser avant de partir. Tu vois, c'est jamais le bon moment de divorcer.
Antonine Iaccarini, caucus avec Antonine, du lundi au jeudi de midi à midi et demi. Merci beaucoup. Je te souhaite une excellente fin de journée. Va classer les manteaux.
Oh, c'est bon. Il faut que j'aille faire du marketplace.
Ah ouais? Tu vas mettre ça en vente? Tu vas faire de la grosse
pièce.
Mais
le fais pas comme le fraudeur qui demandait des affaires, qui demandait un dépôt, puis finalement, supprimer la
conversation. Non, nous autres, c'est bien legit.
Nous autres, on est honnêtes.
Cherchez-vous un manteau. Envoyez des textos à Jeff, il va me gérer ça.
Salut!
Bye!
À demain. On fait une courte pause et par la suite, Luc Laliberté vient s'asseoir avec nous. On va parler de politique américaine. On va parler notamment de la visite, Pascal, c'est passé sous le radar la semaine dernière, du nouveau président syrien, Ahmed al-Shara. Pourquoi c'est important, cette visite-là, à la Maison-Blanche? Hey, c'est un ancien terroriste d'Al-Qaïda. Donc, c'est ce qu'on va parler avec Luc Laliberté. Et on va parler également du rififi entre Donald Trump et Marjorie Taylor Greene, qui s'est excusée d'avoir, justement, été dans l'équipe Trump et d'avoir fait en sorte, en public, de s'être moqué des gens qui étaient contre Donald Trump.
D'après moi, lui s'est couché quand même comme la veille, en se disant « une de plus, une de moins ».
Il l'a traité comme une traîtresse. On parle de ceci après cette courte pause. Vous êtes à l'émission On en jase sur Boulevard 102.1. On en jase sur Boulevard 102.1. Il est précisément midi 36 minutes et on a le bonheur d'accueillir en studio avec nous notre chroniqueur en politique américaine et ex-enseignant d'histoire en politique américaine au Cégep Garneau, Luc Laliberté. Pascal, on aime beaucoup Luc.
Moi, j'aurais aimé ça assister à ses cours.
Moi aussi.
Si je pouvais, je serais très heureuse.
Ah oui.
Mais... Luc... C'est ça qu'on fait, finalement.
Exactement. On a des cours en condensé à Boulevard 101. Luc Laliberté, comment vas-tu?
Particulièrement bien, puis des yeux allumés comme les vôtres et des gens allumés comme ça en classe. Écoute, j'en aurais pris... on remplirait des groupes sans problème.
Ah, merci, Luc. C'est tellement gentil.
Je... pourquoi il n'y a pas d'atelier comme ça, là, tu sais, à côté pour des grands adultes qui ont déjà leur carrière.
Oui, tu ris, mais c'est un beau... Je l'ai fait avec des politiciens pour parler à l'Assemblée nationale, entre autres, pour présenter des thèmes particuliers. Je l'ai fait pour le syndicat de la fonction publique. Donc, je suis invité à le faire, mais c'est jamais grand public. C'est pour des organisations ou des groupes particuliers, mais vous avez peut-être une bonne formule.
Ah oui, on va louer un pub.
Voilà.
Moi, j'avais proposé au boss il y a quelques années. Fait que si jamais il y a des auditeurs qui sont comme moi, j'embarquerais, vous allez me donner peut-être un petit push. 88-971-102.
Let's go.
Le bureau est loin en sortant.
Pas si pire.
S'il y a des auditeurs qui veulent un cours privé avec Luc Laliberté, 418-971-102, texte en grand nombre. Luc, il n'y a pas une semaine qui passe sans qu'on n'ait pas une controverse avec Donald Trump.
Oui.
Et là, la grosse controverse depuis hier, c'est Marjorie Taylor Greene, qui est une républicaine qui ne s'entend plus bien avec Donald Trump et qui va quitter les rangs, dans le fond. J'ai bien compris, là.
Écoute, c'est un revirement de situation dans le cas de Marjorie Taylor Greene. Si on ne connaît pas la politique américaine, on ne peut pas avoir de virage plus brusque que ça. C'est quelqu'un qui s'est fait connaître, qui s'est fait élire, qui s'est démarqué en étant plus Donald Trump que Donald Trump. Donc, retournez ne serait-ce que sur YouTube, le voir des vidéos de campagne électorale, des publicités de campagne électorale. C'est impressionnant dans tous les sens que peut prendre le terme « impressionnant ». Et après avoir été aussi collé et fidèle à Donald Trump, ça fait deux semaines qu'elle est devenue une chouchou de réseau de télévision où on ne la voyait jamais avant. Pas parce qu'on ne l'invitait pas, parce qu'elle redéclinait ou refusait des invitations. Que s'est-il passé? Pourquoi ce changement soudain? Et j'ai hâte de voir combien de républicains vont la suivre, parce qu'on va peut-être voter à la Chambre des représentants là, sur la divulgation du dossier Epstein. Donc, il semble y avoir tout un mouvement chez les républicains pour voter en faveur de la divulgation. Donc,
ça peut-tu être justement qu'on a pris compte de certains dossiers puis là, qu'on ne connaissait pas ces infos-là, donc on se dissocie maintenant de là?
Moi, je pense que on est de retour à la démocratie, à la base, aux pratico-pratiques. Je pense qu'elle a regardé les sondages dans sa circonscription. Je pense qu'elle a regardé le comportement de ses électeurs. Elle a dans son groupe d'électeurs beaucoup de gens qui croyaient dans le message de Donald Trump, qui était « Moi, je suis indépendant, personne ne peut m'acheter et on va jeter ce système-là par terre. » C'est-à-dire tout ce qui était élite protégée, surprotégée, les gens qui s'en mettaient dans les poches, « Votez pour moi. » En anglais, vous vous rappelez peut-être de l'expression « drain the swamp ». On allait assécher le marécage. D'ailleurs, la ville de Washington, en passant, était un marécage avant qu'on en fasse la capitale des États-Unis. Donc, alors Donald Trump a passé ce message-là. Et là, on se rend compte sur au moins un dossier, peut-être sur plus, mais sur au moins un dossier, le dossier Epstein, que finalement, Donald Trump, en s'opposant jusqu'à hier à la divulgation du dossier, bien, il protège justement cette élite-là. Son nom à lui est mentionné, ça va. En passant, il n'a rien fait d'illégal, mais c'est clair, on est capable de documenter maintenant son amitié avec Jeffrey Epstein, puis le genre de rapports ou discussions qu'ils ont pu avoir. Mais ça veut dire que Donald Trump, dans la tête des partisans de Marjorie Taylor Greene, pourrait se protéger lui et tous les autres.
Parce que protéger cette fameuse élite.
Cette fameuse élite. Donc, Epstein, c'était le gratin mondain. Donc, rappelez-vous, là, il y a des noms, le prince Andrew, par exemple, pour le Royaume-Uni. Bill Clinton, chez les démocrates. M. Clinton a eu encore à s'exprimer en fin de semaine à ce sujet-là, lui ou ses porte-parole. Mais donc, il y a un certain nombre de gens très influents, des avocats, des juges, des hommes d'affaires, femmes d'affaires, qui ont frayé avec Epstein. Donc là, on se dit, attendez un peu, on pensait, nous, que quand il était question, par exemple, de pédophilie, de trafic sexuel, hein, de trafic humain, ce dont Epstein ou Maxwell, son ancienne compagne, mais associée aussi, qui est derrière les barreaux, on se disait, bien, on pensait que rendu là c'était comme, c'est une ligne, ce qu'on franchissait pas. Là, et là, j'ai l'impression que Marjorie Taylor Greene, devant tout ça, a très bien compris le mouvement et qu'elle est en train de protéger sa réélection.
On va justement l'écouter hier sur les ondes, quand tu parles d'un réseau de télévision où elle n'allait pas, sur les ondes de CNN.
Avec Dana Bash.
Dana, I think that's fair criticism, and I would like to say humbly, I'm sorry for taking part in the toxic politics. It's very bad for our country. It's been something I've thought about a lot, especially since Charlie Kirk was assassinated, is that I'm only responsible for myself and my own words and actions. And I am committed, and I've been working on this a lot lately, to put down the knives in politics. I really just want to see people be kind to one another, and we need to figure out a new path forward that is focused on the American people, because as Americans, no matter what side of the aisle we're on, we have far more in common than we have differences. Yeah. And we need to be able to respect each other with our disagreements.
C'est pas rien, Luc, parce qu'elle s'excuse pour ses actes. Elle mentionne que depuis la mort de Charlie Kirk, elle s'est rendue compte à quel point il fallait unir l'Amérique et qu'on était beaucoup plus similaires qu'on le croyait, qu'on est différents. C'est complètement à l'encontre de sa propre politique et de celle de Donald Trump.
Et c'est parce... la croire?
Et c'est... Ben ça, c'est une autre question. Je vous entendais en passant le segment qui a précédé notre conversation. Oui, oui. En venant, vous parliez des conservateurs, vous parliez du PQ, vous parliez des... On est habitué à ça, ce qu'on appelle les flip-flops, hein, les changements en politique. Par exemple, à la veille d'un budget, est-ce qu'on renie nos déclarations ou on explique bien pourquoi on va le faire? On est devant ça. Là. C'est un gigantesque flip-flop. Et elle s'est vraiment présentée à Dana Bash. Elle lui a offert le bâton en disant « frappe-moi, finalement ». Elle dénonce la rhétorique qui est très dure, parfois en politique, qui a même été violente, qui se tourne parfois vers la haine. Puis là, ben, Dana Bash ne pouvait pas faire autrement que de dire à Marjorie Taylor Greene, c'est parce que... Vous avez fait votre carrière politique avec ça là, jusqu'à maintenant. Donc, c'est là où je dis, c'est un virage. On va le voir aux élections. Est-ce que ses partisans vont être convaincus finalement que c'est plein de... Elle l'est peut-être bien intentionnée. Le test, c'est toujours est-ce que l'électeur nous croit. Oui. Donc, on va le voir. Mais si elle bouge comme ça ou si elle agit comme ça, dites-vous que c'est parce qu'elle sent la soupe chaude. Et être représentant, puis Pascal, je sais que tu as une question, être représentant aux États-Unis, c'est être constamment en élection. C'est une représentante de la Géorgie, donc Mme Taylor Greene. Ça veut dire qu'on est une élection vient de se terminer, puis on est déjà en levée de fonds pour la prochaine campagne, puis on est déjà à solliciter nos membres. On est déjà à se présenter encore sous notre meilleur jour aux électeurs. Ça explique d'ailleurs pourquoi le Sénat, c'est aux 6 ans qu'on est élu le mandat. C'est qu'on nous retire un peu du jeu politique partisan, alors que les représentants sont dedans à 100%. Donc, c'est des bons indicateurs du climat politique ou des tensions, parce qu'eux ne peuvent pas se permettre d'erreur. Ils n'ont pas de marge de manœuvre.
Mais c'est impressionnant parce que c'est un risque politique qu'elle prend. En voulant dire, moi, je ne parlerai plus à ceux qui m'ont élu finalement aux dernières élections parce que je me dissocie de Donald Trump. J'essaie de conquérir les prochains ou une autre strate complètement. Parfois, tu te dis, bon, ils se sont fait élire dans un gouvernement qui pensait effectivement qu'il allait passer. Cette fois-ci, c'était Donald Trump. Mais quelles sont ses vraies valeurs? Au niveau politique, voilà. Tu vois ça comment, toi? Parce qu'on ne parle pas d'un changement de cap du genre, je quitte ce parti politique-là parce qu'il ne fait plus partie des valeurs politiques au départ que le parti avait. Donc, je décide d'aller indépendant ou je décide d'aller seul. J'ai appuyé fondamentalement des propos de l'homme en question et donc je renie ces anciennes valeurs-là de ma propre personne pour en avoir de nouvelles. Quelles sont les vraies? Elle veut réunir le peuple, mais...
C'est particulièrement intéressant parce que, d'abord, on n'a que 2 grandes formations politiques aux États-Unis. Donc, on devine qu'il y a des groupuscules dans chaque parti. Et on pourrait faire une chronique complète sur les divisions actuellement du Parti démocrate puis sur l'attitude qu'on a depuis que Mme Dany a été élue à New York. Ça, c'est comme un cadeau empoisonné, cette victoire-là, pour le Parti démocrate en prévision des prochaines élections. De l'autre côté du parti, du côté des Républicains, je dirais qu'une des forces du Parti républicain, mais là, on ne parle pas de principe, de grandeur d'âme, de noblesse d'intention, c'est que le Parti républicain, mais c'est une force au plan électoral, c'est un chiffrier Excel. C'est-à-dire qu'on prend 2 colonnes, les gains, on prend les pertes, puis on s'assure de maximiser les gains. C'est-à-dire que nos valeurs, nos principes, j'espère que je le vulgarise bien, mais à un moment donné, c'est au 2e rang. Qu'est-ce que ça nous prend pour gagner? Yeah. Puis une fois qu'on sera au pouvoir, peut-être quand on... Puis on le voit, je vous écoutais parler d'indépendance avec Paul Saint-Pierre Plamondon tout à l'heure en mentionnant PSPP. Là, je me disais, est-ce qu'on en parle d'indépendance ou pas? Là, jusqu'où on va? Puis on fait un pari. Est-ce que c'était mieux de taire l'idée de l'indépendance? Mais une fois au pouvoir, on va ramener ça.
En même temps, c'est ce qui te définit comme personne ou comme parti. Ouais, fait donc, que là, dans une ère où le monde réclame ça.
Le Parti républicain, lui, quand on regarde d'ailleurs comment Donald Trump est arrivé au pouvoir, il a maximisé la grogne de beaucoup beaucoup d'électeurs, mais ce n'était pas assez au départ pour le faire gagner. On l'a gardé parce qu'il nous rapportait de très, très bons sondages pour nos débats télévisés. Puis, au début des primaires, ça a braqué les projecteurs sur l'ensemble des candidats républicains. Mais quand on a essayé de le freiner après, parce qu'on a essayé de le faire, c'était « Oh, il est trop tard.
Il est
maintenant,
trop tard,
il faut faire
ça.
Avec. » Et quand on fait avec, on pourrait se faire un montage audio de sénateurs et de représentants républicains qui, à l'intérieur d'une semaine ou deux, ils avaient attaqué violemment Donald Trump, le traitant de ce qu'il y avait de pire au monde. Et deux semaines plus tard, il l'encensait, disant « il va changer le pays ». Écoute, Marco Rubio, qui est son secrétaire d'État...
C'est ce que j'allais dire. Voilà. Son secrétaire d'État a été un farouche adversaire de Donald Trump.
Mais dans un sens, c'est une force. C'est-à-dire que si l'objectif ultime pour changer les choses, c'est de parvenir au pouvoir, vous faites... En même temps, c'est très dur, c'est cru, c'est la force pour la force. Mais... si pour changer des choses, il faut avoir le pouvoir, on est prêt à presque tout sacrifier pour parvenir au pouvoir.
Mais ça, ça
et
me
je
fait
pense
peur.
Que c'est oui, a... ben, c'est-à-dire
pas
que...
peur, j'en dors pas la nuit.
Non, non, mais en effet...
Mais parce... peur d'où s'en va la politique, bien oui, qu'elle a été comme ça tout aussi longtemps qu'elle existe.
C'est là où je comprends souvent, parce que quand on fait du commentaire politique, on finit toujours par être étiqueté. Puis des fois, je suis à droite, des fois, je suis à gauche, plus à gauche. Mais c'est difficile de pas comprendre que les gens deviennent cyniques avec le temps quand on a ça. Et c'est même difficile, quand on a l'impression que c'est trop beau pour être vrai, de croire un politicien. Moi, je me souviens encore, au plan politique, on pourrait faire un bilan de la présidence Obama qui serait en demi-teinte. Là, il y a du bon, il y a du moins bon, il y a des limites au système aussi. Mais c'est rare un politicien comme Obama qui s'est présenté comme quelqu'un de bien, quelqu'un de principe, et qui, à la fin de sa présidence, quitte, et on a encore cette impression-là.
T'as raison.
On peut trouver qu'il a pris de mauvaises décisions.
Il n'y a pas eu tant d'usure du pouvoir dans le cas d'Obama.
Puis, moi, je ne me rappelle pas d'un squelette, une relation d'affaires avec un agent d'immeuble qui avait un passé un peu douteux, là, une transaction, mais sinon... j'essaie de trouver quelque chose de majeur où on se dit « Ah, qu'est-ce que ce gars-là nous a eu? Hein? Il nous a vendu de l'espoir, puis il nous a vendu du bonheur. Yes, we can. » Je répète, au plan politique, il y a du bon et du moins bon. Ça, je peux faire ce bilan-là. Mais de l'autre côté, c'est presque trop beau pour être vrai. C'est comme « Ah! » Ça existe, une famille qui est un couple qui est ensemble et qui a l'air de vraiment s'aimer. Parce qu'on pouvait regarder Bill et Hillary Clinton et trouver que c'était un couple qui avait énormément de pouvoir. Mais on devine que la maison, quand les journées où
ils
acceptaient d'être
amour,
ensemble, ben, c'est-à-dire que c'est un amour qui était différent. C'est une relation où on s'appuyait mutuellement.
Une relation d'affaires.
Voilà. Mais ça ressemblait moins à la vision, entre guillemets, plus traditionnelle ou romantique, en tout cas, du couple. Alors
vraiment.
Que les Obama nous ont offert ça.
Tu as entièrement raison.
Alors, le Parti républicain est un petit peu là avec Marjorie Taylor Greene. Et moi, c'est ce qui va m'intéresser, c'est de voir Donald Trump, normalement, son nom ne revient pas sur les bulletins de vote. Il n'est pas là en 2026. L'année prochaine, c'est des élections pour la Chambre des représentants ou le Sénat. Le président n'a pas d'affaire là. C'est-à-dire que ce n'est pas son siège qui est en jeu, mais il peut avoir une influence. Sinon, en 2028, ben, il a fait ses deux mandats, Donald Trump. Donc là, il y a des républicains qui commencent déjà à penser jusqu'à quel point on suit Donald Trump? Parce qu'à un moment donné, il va partir. Donc, est-ce qu'on y va plus pour nous-mêmes, pour notre circonscription, ou on essaie de voir qui sont les nouveaux meneurs qui s'en viennent? C'est ça la réflexion qu'on va mener. Et en passant, la ligne de parti aux États-Unis est moins forte que la ligne de parti qu'on a au Québec et au Canada. C'est-à-dire qu'on peut se permettre d'adapter le discours en fonction de la région du pays où on est. Donc, un républicain de la Californie puis un républicain de l'Arkansas, ça ne dira pas la même chose. On peut faire le rapport inverse pour les démocrates aussi.
En effet.
Un démocrate va être plus conservateur à certains endroits et plus progressiste à d'autres.
Luc, je veux pas te laisser partir. On parle avec Luc Laliberté, chroniqueur en politique américaine, avant de t'entendre sur la visite d'Ahmed Al-Sharaa. C'est toi qui m'as allumé là-dessus dans ta chronique de dimanche dans le journal de Québec, Journal de Montréal. C'est un ex-terroriste d'Al-Qaïda en Irak qui a été emprisonné par les Américains. Lui, il a fait tomber en novembre 2024 le président syrien Bachar al-Assad. Mais là, Donald Trump, qu'il reçoit à la Maison-Blanche, je trouve qu'il y a de l'invraisemblable là-dedans.
Je ris, en fait, quand on regarde ça avec la perspective. Vous comprenez ça de haut, ça se comprend. Et j'ai même dit dans ce texte-là que je pense que Donald Trump a raison, pas de le recevoir à la Maison-Blanche, mais de se rapprocher de la Syrie.
De tisser des liens?
Oui, voilà. C'est peu importe qui est à la... Quand on fait des relations diplomatiques, quand on fait de la politique étrangère, quand on veut jouer sur l'échiquier international, il y a des gens qu'on condamnerait chez nous, qu'on ne voudrait pas avoir, et on va se lier avec eux pour protéger des intérêts stratégiques. Quand il est président la première fois, Donald Trump est celui qui retire les troupes du nord de la Syrie. Et je me souviens encore, on avait fait un plat avec ça. Les Européens étaient catastrophiques.
Ben oui, parce que ça laissait la place à la Russie.
Voilà, puis c'est qu'en plus, pour l'image des États-Unis, c'est qu'on avait soutenu les Kurdes qui faisaient, entre guillemets, le sale travail pour les Américains sur le terrain. Et là, on part en leur disant pas merci, bonsoir, on s'en va, on quitte. On laisse les Kurdes en perdition, ou en tout cas, on vient de les déstabiliser comme il faut, et on laisse la place à d'autres joueurs, dont la Russie. Mais là, 2025, la donne a changé. Donc, Bachar el-Assad, qu'on pensait presque éternel à un moment donné, est tombé. Et la Russie est beaucoup moins stable par rapport dans ses relations avec la Syrie.
Pris dans d'autres conflits, là, notamment en Ukraine.
Pris dans d'autres conflits. Puis, on doit retisser, sous Bachar el-Assad, la Syrie pour la Russie, c'était une espèce de terrain d'entraînement. On pouvait tester des armes, on pouvait tester des stratégies. C'était, le lien était direct. C'est moins clair avec al-Shara, le nouveau meneur, que ça se passe de la même façon. Et là, j'ai trouvé intéressante cette situation-là pour les Américains, considérant que dans la région, les choses ont changé. Donc, il y a les accords d'Abraham, hein, où on veut stabiliser économiquement cette région. Donc, on veut essayer d'atténuer les rivalités, les guerres pour tisser des nouvelles relations économiques. Il y a le cas d'Israël, bien sûr. La Syrie puis Israël, bien, c'est important pour les Américains, dans la logique américaine, d'être bien positionnés. Puis le message est fort à la Russie. Quand on regarde l'Ukraine, par exemple, j'ai toujours dit, la stratégie de l'administration Biden en Ukraine, c'était... On va être là quand l'Ukraine va se relever. Mais c'est un message qu'on passe ailleurs, en Asie, entre autres, et aux Russes. Donc, là, l'administration Trump refait ça. Et je trouvais que la stratégie de Biden était intéressante. Je ne vous dirai pas le contraire parce que c'est Donald Trump.
Parce que c'est Donald Trump.
Mais ce qui avale, ce qu'on a plus de difficultés à avaler, c'est que cet individu-là est un terroriste. On pourrait faire son histoire dans une série et ce serait épouvantable. Et ça me rappelle... en même temps, les liens qu'on entretient avec l'Arabie saoudite. Je ne sais pas si vous vous souvenez, sous Joe Biden, il y avait eu un grand débat à un moment donné parce que Joe Biden, en campagne électorale, avait dit que Mohamed Ben Salman puis l'Arabie saoudite, ça allait être des parias parce qu'ils avaient autorisé l'assassinat d'un journaliste américain.
Oui, je me souviens très bien.
Et quand il revient au pouvoir, Joe Biden, ben, il va aller au Palais Royal rencontrer Mohamed Ben Salman et celui qui l'a traité de paria, là, il hésite entre « est-ce que je lui serre la main ou je lui fais un fist bump? » Et il va, c'est ridicule vu de l'extérieur.
Il a fait le fist bump.
Il a fait le fist bump en disant c'est moins compromettant. On ne sait pas. Mais c'est gros, faut comprendre l'espèce de calcul. C'est ça, mais c'est l'image qu'on voulait protéger. Mais en même temps, on sait très bien qu'il fait ça à reculons, tout comme on devrait le faire à reculons aussi avec al-Shara. Mais là, ce que Donald Trump a fait, c'est de le recevoir littéralement à la Maison-Blanche pour un ancien terroriste et pour un meneur syrien. C'est une sacrée reconnaissance qu'il lui a donnée en voulant rétablir les ponts.
Luc Laliberté, c'est toujours un bonheur de discuter avec toi, un bonheur encore plus grand quand tu es présent en studio avec nous. Merci beaucoup.
Ah, quand je le peux, je le fais toujours. Très, très agréable. Merci beaucoup.
Ça fait plaisir. Luc Laliberté, chroniqueur politique américaine pour nous à Boulevard et également ex-enseignant de l'histoire des États-Unis au Cégep Garneau. Dis-moi donc, il me semble qu'on a ça, nous autres, un enseignant qui fait des podcasts pour nous autres. Pascal, je me trompe-tu?
Ben non, puis c'est chaque lundi, en fait, c'est le prof d'En Cause que vous connaissez comme chroniqueur, mais aussi enseignant, il pratique toujours. Il a le podcast original Classe à part sur nos ondes, lundi 19h. Donc, c'est avec lui, et chaque semaine, on est dans les grands enjeux éducatifs d'aujourd'hui, de demain, du passé. Pourquoi j'ai du passé? Parce que ce soir, énorme visite pour Sylvain D'En Cause à son podcast. On parle du système d'éducation en général avec Sébastien Proulx, qui est ex-ministre de l'Éducation. Je ne sais pas si vous vous en souvenez ou je viens de vous en souvenir.
Ministre de l'Éducation sous un gouvernement austère de Philippe Couillard.
Austérité!
L'austérité!
Un ancien libéral et on aborde la gouvernance de notre système d'éducation, les attentes du milieu envers le ministre, le rôle du ministre versus le rôle de son ministère, les interactions du ministre aussi dans divers groupes, par exemple les syndicats, CSS, parents, citoyens. Ça, là, ça aide énormément à avoir une opinion supplémentaire ou à avoir une vision tout autre, de connaître l'engrenage aussi. Tu sais, Bernard Drinville en a mangé, là, la pluie, là, tu sais, il en a traversé des orages. Est-ce que c'était vraiment lui? Est-ce que tout ça, ce soir, 19h, classe à part, Sylvain D'En Cause, avec le ministre, l'ex-ministre, en fait, Sébastien Proulx.
Ça va tellement être intéressant. Bon, Pascal, on vient de parler de politique américaine, on a parlé de souveraineté du PQ, on a parlé du budget au Canada, mais là, c'est le temps de parler de la grosse affaire. We'll be young forever.
Happy birthday, Cathy! holding hands and accepting a rose from a fan, Katie and Justin Trudeau just hard-launched in Paris, making it official. They're a couple, as they celebrated her 41st birthday at a cabaret show.
Ooh. Happy birthday to you!
Allez, français, hein?
À sa fête, Pascal, Katy Perry, main dans la main avec Justin en France.
En robe rouge qui ne passe pas inaperçue. Magnifique
qui
quand
ne
même.
Passe pas inaperçu.
Puis, ça, c'est un sujet qu'on aime avoir ensemble,
ben
Jeff,
oui.
Parce qu'on voit au-delà du potin. Pour nous, c'est
clairement.
Pas qu'un potin.
Non, 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 non.
C'est aussi qu'est-ce qui va arriver dans toute cette. Sphère politique, puis
ben
on pourrait
oui.
le rattacher à Bruno Marchand et Monique Néron, mais Bruno Marchand est encore en termes de pouvoir. On pense que ça va peut-être aider au ton durant le mandat du maire de Québec. Fait que, on analyse toujours ces relations-là, toi et moi.
Et là, Sophie Grégoire est sortie aujourd'hui. Sophie Grégoire Trudeau, l'ancienne femme de Justin Trudeau, elle a dit « Je m'autoriserai à être déçue, en colère et triste par rapport à la relation de son ex-mari et de ouais. Katy Perry. »
Mais j'ai écouté. Puis ce que je comprends, là, en fait, c'est que pour Sophie Grégoire, c'est normal, ils ne sont plus ensemble. Par contre, c'est toujours douloureux de voir
ben
son
oui.
ex avec une autre. Et peut-être un peu
surtout
plus douloureux parce que là, c'est très public.
C'est très, c'est ça.
Mais elle choisit ce qu'elle veut faire avec ça parce qu'elle préfère être bien avec elle-même.
Ouais. Elle est présidente, directrice générale de Brouillard Communication. On a la chance de parler avec elle de cette envolée extraordinaire du couple Justin Trudeau, Katy Perry. C'est Florence Brouillard. Florence, comment vas-tu?
Ça va bien. Comment ça va, vous?
Ça va super bien, Florence. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Bon, Florence, qu'est-ce qu'il faut penser de Katy Perry puis Justin Trudeau? C'est trop gros? C'est ça une de tous les magazines au Canada?
On doit-tu en parler? C'est quoi l'image
ouais,
de ça?
Qu'est-ce qu'il faut faire avec ça, là? Aide-nous, nous, simples animateurs de radio.
Écoute, c'est assurément un sujet qui fait jaser, puis qui fait jaser depuis plusieurs mois. Moi, depuis la première sortie publique ensemble au mois de juillet dernier à Montréal, je me fais littéralement harceler de questions par différents médias pour disséquer le tout. On revient quand même à la base. Là, c'est une relation qui semble être devenue une relation officiellement amoureuse entre deux personnalités publiques, une issue du monde politique et une autre, bien sûr, de l'univers culturel. C'est pas nouveau, hein? On est bien d'accord que dans l'histoire de l'humanité, c'est pas la première et c'est pas la dernière fois que ça arrive. Dans le cas qui nous préoccupe à l'heure actuelle, ce qui rend le tout encore, disons, plus excitant, plus salace, mais il y a beaucoup d'éléments, notamment l'espèce de build-up qui s'est créé dans l'œil du public, donc qui ont été vus ensemble sans assumer d'être un couple, qui ont été revus ensemble ailleurs dans le monde. On parle la première fois à Montréal, après ça dans un concert, quand c'était pas au restaurant, après ça c'était sur un yacht, puis bon, éventuellement à Paris. C'est sûr que ça fait l'envie de plusieurs, parce que Katy Perry est une belle femme qui est une star internationale. Justin Trudeau, ben évidemment, c'était notre ancien premier ministre, donc on le garde à l'œil. Ça nous intéresse de savoir ce qu'il fait. On sait qu'il s'est séparé dans les dernières années. Donc, c'est comme une espèce de recette magique pour un conte de fées qui attire l'attention, qui met aussi en évidence, je dirais, ce que les réseaux sociaux ont créé dans la dizaine dernières années. Parce que avant, bon, ça aurait fait la une des magazines à potins, bien sûr, avec une certaine récurrence, potentiellement, à chaque moment où il faisait une apparition publique qui aurait été croquée par les paparazzi. Maintenant, avec les plateformes sociales, ce qu'on observe, c'est qu'évidemment, ben, très, très, très vite, des photos d'eux en action fusent de toutes parts. Et ça fait une espèce de spirale qui fait que l'information circule en boucle, peut être, d'une part, non pas déformé, oui, mais est amplifié un peu à l'infini, au point que certains, au bout de 24 heures après leur dernière sortie publique à Paris pour l'anniversaire de Katy Perry, étaient déjà plus capables, ça arrêtait plus, on n'est plus capable de les voir ensemble. Et là, aux minutes, tout le monde, ils viennent de commencer à sortir ensemble, c'est loin d'être fini. Donc, ce qu'on observe en ce moment, c'est vraiment une amplification. Puis, ce qui est intéressant d'observer, c'est que Justin Trudeau, on l'a toujours, malgré son rôle, évidemment, de premier ministre, on l'a toujours associé un peu à la culture pop. Je voudrais que c'était positif et négatif quand il était évidemment au pouvoir.
Mais c'est vrai qu'il attirait ça. Puis, tu sais, on parlait de ses années en prof de théâtre, on parlait de ses costumes et tout ça, mais ça gravite autour, malgré les opinions politiques qu'il y avait autour de ça. Il y avait cette culture pop-là qui mettait de l'avant. On voyait qu'en pandémie, c'était important pour lui la culture. Il en parlait que ça sauvait les gens et tout ça. On n'est pas tant surpris, effectivement, de le voir avec... Ben, on est surpris de le voir avec Katy Perry, mais pas d'être dans ce domaine-là. Si on peut faire un lien, Florence, peut-être qu'on se trompe, avec là, il n'est plus en politique. Mais avec Bruno Marchand et Monique Néron, bon, certains disent que c'est à plus petite échelle ce genre de couple qui attire l'attention et tout ça. Mais nous, on se questionnait, puis on trouvait que c'était un apport important dans la conversation parce que Bruno Marchand a été critiqué politiquement parlant par rapport à son ton hein, lors de son dernier mandat. Nous, c'est notre job, on parle politique, on parle de comment ça se fait. Cependant, l'amour là, pour des politiciens, ça peut-tu jouer, puis un couple public aussi pour un politicien, est-ce que ça peut jouer positivement et ou négativement?
Ah, ben bien sûr, ça joue très positivement, en fait. Puis, il suffit que de regarder certaines séries télévisées qui ont traité de la chose. Je pense à j'oublie le nom, malheureusement, avec Olivia Pope, je ne sais pas si vous savez de quoi je parle. Attendez, je vais vous trouver le titre, parce que ça en fait vraiment... Elle en parle continuellement. C'est une série, Scandal. Donc, Scandal. Une série qui a duré plusieurs années, qui était délicieuse. Puis, dans Scandal, le personnage principal était une conseillère du président américain, puis était aussi sa maîtresse. Puis, justement, on voyait vraiment les coulisses des réflexions, le lien, en fait, entre le pouvoir et l'amour. Donc, oui, pour répondre frontalement à ta question, ça joue en la faveur, généralement, des politiciens. Tu le remarqueras, la très grande majorité d'entre eux sont en couple. Puis, souvent, on va se demander même si c'est des couples de façade, parce que ça envoie une image assurante, de cohérence, des valeurs familiales plus profondes, etc., etc. Maintenant, bon, évidemment, dans le cas de Katy Perry et Justin, comme dans le cas de Bruno et Monique, plus proche de nous, on parle pas nécessairement de valeurs familiales parce que c'est des couples qui ont refait leur vie ensemble. Mais oui, ça envoie définitivement un message. Maintenant, c'est sûr que où il y a peut-être des nuances à apporter, c'est que la perception de chaque individu, si on veut, s'amalgame. Donc, selon la réputation de chacune des personnes qui composent le couple, ça va s'amalgamer. Et c'est bien sûr que ça peut pas faire l'unanimité. Ceci étant dit, généralement, ça envoie quand même une aura relativement positive quand c'est un couple qui a une posture positive aux yeux du public, tout simplement. Ça donne l'impression qu'ils sont plus forts à deux, bien sûr. Puis c'est sûr que quand on parle bon, d'une star culturelle internationale comme Katy Perry, avec un ancien premier ministre qui est un symbole national fort, mais qui est aussi bon connu dans le monde entier, comme le couple Trudeau-Perry, ça, c'est très, très puissant et très fort. On se doute qu'ils vont pouvoir éventuellement, s'ils restent ensemble, utiliser, on va dire, leur union, en gros guillemets, pour faire peut-être même avancer des causes qu'ils n'auraient pas fait quand ils étaient seuls. Maintenant, à notre échelle à nous, dans la région de Québec, on parle quand même de la politique municipale et non pas d'une célébrité, mais d'une journaliste. Donc, il y a peut-être un petit lien à faire, mais reste que c'est un lien, à mon sens, qui est pas si gros que ça, finalement, parce que c'est juste que c'est un couple composé de deux personnalités publiques, mais pas du tout à la même échelle.
Florence, tu es une spécialiste en communication. Comment tu aurais conseillé Sophie Grégoire Trudeau, qui fait une sortie publique aujourd'hui en parlant de sa tristesse, en mentionnant qu'elle est bien consciente
son premier commentaire,
que beaucoup de choses sont rendues publiques, peuvent être difficiles à vivre. L'aurais-tu conseillé à faire cette sortie-là, ou là, elle a l'air un peu de la femme jalouse de la popularité, de la nouvelle flamme de son ex-mari?
Je pense qu'à première vue, évidemment, elle peut avoir l'air de ça, mais considérant le personnage public de ce Trudeau, Sophie Grégoire, qu'on va l'appeler maintenant, ce serait peut-être plus poli,
oui, en
plus adapté. Moi, je trouve que c'est tout à fait aligné avec la personnalité publique qu'elle a. Donc, puis tu sais, ça fait vraiment partie des choses que nous, ils sont très importantes chez nous, chez Brouillard, c'est-à-dire de ne pas mettre des mots dans la bouche des gens qui vont les dénaturer. J'y crois vraiment très fortement, puis c'est souvent ce que les agences de PR, on peut se faire reprocher. Puis tu sais, Sophie Grégoire est très, très, très ouverte sur les enjeux de santé mentale, sur son parcours intérieur, sur tout ce qu'elle essaye, sur sa vérité aussi. Et donc, je pense que c'est tout à fait remarquable, en fait, qu'elle ose parler avec vulnérabilité de ce qu'elle ressent en partie entre vous et moi, depuis que je vois les photos de Katy Perry puis Justin Trudeau, je me dis, mon Dieu, pauvre Sophie, parce que peu importe si elle est en couple, peu importe leur relation, ils ont l'air d'avoir une relation saine parce qu'ils ont des enfants ensemble, etc. Il reste que, vous le savez comme moi, là, vous avez probablement déjà vécu une situation amoureuse difficile, une rupture à l'ère des réseaux sociaux. C'est beaucoup plus difficile, j'ai pas besoin de vous faire un dessin, quand en plus, ton ancien conjoint ou conjointe se ramasse avec une célébrité mondiale, que leur relation est scrutée à la
loi. Tu dois avoir peur de perdre la popularité de tes enfants, là, me semble. T'sais, Katy Perry débarque chez vous.
Ah. Ben écoute, ça peut faire partie de la réflexion. Moi, je t'avouerais que c'était un peu loin de mes concerns, mais ça doit être difficile. Puis moi, je trouve qu'elle fait très bien de le nommer, parce que de ne pas le nommer donnerait l'impression, à mon avis, qu'elle n'est pas l'humaine qu'elle essaie de défendre qu'elle est avec tous ses projets. tous ses chants en ligne, tout son livre, etc., les tournées d'entrevues qu'elle fait. Donc, c'est très aligné. Moi, ça me surprend pas tellement. Puis, je lui souhaite, mon Dieu, la meilleure des chances pour passer ça. Parce que, honnêtement, moi, j'ai vraiment l'impression que ça doit être difficile, plus difficile qu'on le pense. Puis, j'ai l'impression que c'est peut-être mon côté un peu trop empathique, mais je pense qu'on doit être bienveillant dans des situations comme ça, plus qu'on l'est de façon générale.
Florence, tu n'aurais pas pu mieux dire pour terminer cette entrevue, parce que je suis tellement en ligne avec toi là-dessus. Il faut vraiment prendre soin les uns des autres. C'est sûr que pour Sophie Grégoire, là, c'est difficile de voir Justin Trudeau, là, ses premières pages de tous les magazines, main dans la main avec la belle Katy Perry dans sa robe rouge, là.
Exact.
Aïe, 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 que ça doit faire mal. J'en ai très conscience. Florence Brouillard, merci beaucoup pour ta participation à l'émission On en jase et on se reparle prochainement. C'est un super beau dossier qu'on a abordé ensemble.
Absolument, à très
cool.
bientôt.
Salut, à très bientôt. Florence Brouillard, qui est présidente directrice générale de Brouillard Communication. Hey, Pascal, réécoute ça, réécoute ça. We'll be young forever.
Happy birthday, Cathy!
Holding hands.
Attends, ils vont chanter bonne fête. Official. They're a couple as they celebrated her 41st birthday at a cabaret show. Happy birthday to you. Oh, on adore nos cousins français. On en profite pour saluer Nadine qui est régulièrement à l'écoute, qui est justement une cousine française qui est ici à Québec et qu'on apprécie grandement. Partiel de la circulation.
Oui, Félix Leclerc-Est, accès par l'avenue Champfleury, le boulevard Henri Bourassa, là, c'est partiellement entravé. Il y avait une panne, le remorquage était en cours, c'est terminé, mais ça a quand même ralenti le secteur. Puis c'est aussi des informations qu'on avait eues de la part des auditeurs en passant. Merci beaucoup. Vous êtes nos yeux, nos oreilles. Mais il y avait collision impliquant deux véhicules sur le boulevard Charest-Ouest. Donc, actuellement bloqué en direction ouest entre la rue Saint-Vallier et Marie de l'Incarnation. C'est hyper complexe dans le secteur ces temps-ci. Là, ça ajoute à tout ça. Si vous êtes capable de passer par un autre endroit, la réouverture est prévue sous peu, mais quand même, ça crée des dommages. Puis, je te dirais même un petit clin d'œil personnel.
Ah, ouais,
le Vieux-Québec, ces temps-ci, là, dans le coin de l'Hôtel de Ville. Si vous avez à y aller...
C'est vrai que c'est difficile à circuler.
Essayez de ne pas y aller.
Ouais.
Avec un véhicule, là, c'est vraiment...
Si vous êtes assez en forme, stationnez-vous en basse ville puis montez les escaliers ou montez par la côte Honoré-Mercier.
Puis dans le coin de l'Hôtel de Ville, là, c'est le stationnement de l'Hôtel de Ville que je peux vous recommander. Faites pas d'autres détours, cherchez pas des rues.
Vraiment?
C'est là, puis marchez.
Tu as entièrement raison, Pascal CV. Après la pause, on parle avec Gabriel Giguère. Faut pas revenir un peu à ce budget du Canada-là qui va être adopté aujourd'hui. Qui va être absent, qui ne sera pas absent. Mais avec Gabriel, on va plus parler du côté économique, évidemment, de ce budget-là. Gabriel est analyste politique senior pour l'Institut économique de Montréal. Et Pascal, on va faire un bon tour d'actualité également pour bien informer nos auditeurs.
Absolument.
Excellent. C'est ce qui suit après cette courte pause de l'émission d'En Jase sur Boulevard 102.1.
Jusqu'à 14h.
L'émission d'En Jase, qu'est-ce que tu penses, Pascal CV?
Je suis vraiment désolée, t'as ouvert le micro.
Non, pas trop.
En plein au moment où je lisais la joke d'un auditeur. Puis l'auditeur disait surtout Katy Perry chante mieux que Sophie Grégoire. Tu sais, tu te rappelles là,
oui.
La fameuse chanson de Sophie Grégoire? C'est encore quelque chose qui me fait rire, mais je sais que ça peut paraître comme près de l'intimidation.
N'hésitez pas à interagir 418-971-1021. Vous voyez, ça fait passer des beaux petits moments de fou rire comme ceci.
On a des humoristes sur Twitch, twitch.tv/BLVD/FM.
Exactement. Et ça me fait penser que nos meilleurs moments sont sur le BLVD.FM. Vous pouvez nous écouter également sur la web radio. Donc,
aïe, aïe, aïe. J'aime ça, ce genre de joke-là.
Ah, exactement, un petit fou rire du lundi. Ah, Katy Perry, elle fait tourner les têtes et c'est maintenant le beau Justin qui l'a.
Et un autre qui fait tourner les têtes cette fois-ci, un petit peu plus de façon rationnelle et pragmatique, c'est Mark Carney.
Oui!
Parce qu'à la Chambre des communes, aujourd'hui, on s'apprête à se prononcer sur le projet du budget du ministre libéral du côté du fédéral. Puis on a choisi de doubler le déficit, vous savez, pour relancer l'économie de son pays. Mais c'est ça qui attire l'attention aujourd'hui, vraiment. Là, c'est ce vote-là envers son annonce financière de la semaine dernière.
Plein ça, on en parle dans quelques minutes avec Gabriel Giguère. Sinon, qu'est-ce qu'on retient dans l'actualité? C'est un... Juste actualité tranquille, hein, ce lundi-là, si je ne me trompe pas.
Oui, c'est tranquille. Il y a une nouvelle avec laquelle je vais finir mon bulletin qui est à Longueuil, mais qui est...
D'une tristesse et de détresse totale. Je vais y aller avec aussi aujourd'hui, ce qu'on doit faire, c'est ramasser les pancartes électorales. Hein. Ça doit disparaître aujourd'hui. C'est la loi électorale
Message
au Québec.
Message à Manouchka Blanchette, la candidate de Québec forte et fière. Dans ma rue, il y a encore une de tes pancartes.
Dépêche-toi, Manouchka, parce que c'est une loi qui stipule que toutes les pancartes électorales doivent être retirées au plus tard 15 jours après les élections. On est là. Et ce qui reste devra donc disparaître sous peine d'être enlevé avec une facture refilée au candidat. Alors, Manouchka, pour avoir une facture, merci de l'informer qu'il restait une ou deux pancartes.
C'est ça. Je suis gentil, je pense à Manouchka, malheureusement pour elle qui n'a pas été élue. C'est Mélanie Sauvé de Respect citoyen qui est élue dans Sainte-Thérèse-de-Lisieux.
Et Élections Québec, Québec invite les citoyens à faire un signalement pour la municipalité ou propriétaire des lieux s'il y a une pancarte qui demeure affichée après la date limite. Sachez-le, c'est aujourd'hui la dernière journée pour faire valoir votre bouille. Inflation qui est en baisse à 3,2% au Québec, mais quand même une hausse marquée de certains produits. Et c'est des produits qui font mal, des produits de votre quotidien. Je vous parle de café, t'en bois combien, vous en buvez combien. Et dans le trafic qu'on a, on a besoin d'une petite tasse chaude le matin. Il en fait partie. On le savait, ça fait plusieurs mois qu'on vous parle d'inflation sur des produits ciblés. Le café, le bœuf, les carottes. Ça, c'est touché. Bien qu'on soit en baisse au niveau de l'inflation, ça, c'est encore à prix d'or. On parle d'une augmentation à pareille date, là, l'an passé pour le café de 26%, le bœuf haché de 20%, le bœuf frais de 17% dans l'ordre, fruits secs déshydratés 12% de plus, les carottes 11% de plus. Puis ce matin, je me questionnais en lisant l'article, je me disais, crème, avec toi, Jeff, on a parlé à David Simard, j'avais fait un dossier.
Oui, c'est vrai, excellent dossier d'ailleurs.
Sur ces carottes-là qui étaient vendues à rabais, mais des carottes de la Chine, et qui ont tassé nos carottes.
Puis là, finalement, 11% d'augmentation pour les carottes, ça fait pas de sens.
Et pourtant, c'était une superbe année. Les producteurs auraient bien voulu les vendre plus que ça. Ils ont dû les vendre à perte même, comme carottes à chevreuil. Bien des questions qu'on peut se poser au niveau de l'alimentation. Et ça en fait partie de ça. Il y a un fraudeur, un trentenaire, 40 000 $ qui s'est mis dans les poches et qui a dérobé à ses victimes sur le web. Il a fraudé 700 Québécois sur Facebook Marketplace. Dans le fond, c'est qu'il vendait des choses. Il y avait plus de 44 profils Facebook. Puis il demandait un dépôt. Il encaissait le dépôt, fermait l'annonce, puis il passait à une prochaine victime.
Donc, ne faites jamais ça. N'envoyez jamais de dépôt à des gens de Marketplace comme ça.
Puis la police dit qu'il pense que Patrick Deputaire, là, 38 ans, c'est pas le seul. Là, escroc, ce gars-là était à pointe calumet. Il dit qu'il y en a sûrement plein d'autres. C'est juste que avec les signalements qui sont faits à la police, ben on voit qu'il y en a qui n'osent pas le faire parce que c'est des petits montants. Mais quand vous en avez une fraude comme ça, un sacripant qui vous a eu ou quoi que ce soit... signaler quand même, parce qu'eux, ils peuvent faire des corrélations entre les cas. Puis finalement, c'était 40 000 $ là, que le gars a volé au total.
Ouais, exactement.
Alors, c'est important. Puis, ce qu'on dit, c'est qu'il va, il va faire face à 23 chefs d'accusation de fraude pour 23 dossiers différents. Alors, les personnes fraudées sur Marketplace ont perdu des montants allant de 20 à 400 $ pour des faux achats de bateaux, de scies, de remorques et tout ça. Le gars a tout dépensé, on dit, dans le jeu puis dans l'alcool. Mais il n'est pas seul à faire ces affaires-là. Donc, soyez aux aguets.
Soyez très, très, très vigilants. L'histoire de Longueuil?
Oui, le bébé qui a eu 50 fractures avant que la mère fasse ce qu'il se doit.
Oh my God.
La mère avoue ne pas avoir fait ce qu'il fallait pour que ça n'arrive pas. Elle a attendu 4 jours avant de le transporter à l'hôpital pour une jambe fracturée. Ça, c'est dans le Journal de Québec. C'est une histoire qui retentit partout dans la province. Bébé qui s'est retrouvé à l'urgence avec cette jambe cassée-là, qui faisait souffrir depuis des jours. 50 fractures, dont plusieurs se sont toujours pas expliqué là, dans les pronostics. Puis ça fait 5 ans. Ça a pris 5 ans avant que la mère indigne avoue à une agente d'infiltration qu'elle est coupable de ne pas avoir fait ce qu'il fallait pour aider son bébé. Elle a 30 ans. Elle a admis ses torts au palais de justice de Longueuil. Puis l'accusé, bon, son identité est protégée pour préserver celle de la victime. Puis elle n'avait pas planifié sa grossesse en 2018. Elle ne connaît pas le père. Elle connaît seulement le père depuis quelques semaines. Puis les conflits ont rapidement devenu fréquents. Leur relation s'est envenimée après la naissance de la fillette à l'automne. On l'a dit épuisée, impatiente, etc. Vraiment une histoire de détresse totale. Puis c'est surtout la fillette qui est hospitalisée qui en paie le prix. Donc, elle a finalement été vue par un médecin, là, seulement 4 jours plus tard. on n'était pas en mesure de bouger même sa jambe. Hospitalisé 10 jours au CHU Sainte-Justine. Puis bien sûr, ben, la justice fera son cours.
Oui, on souhaite prompt rétablissement à cette jeune fille-là. Puis n'ayez pas peur de porter là, justement attention dans votre entourage. Si jamais il y a des gens en détresse, là, venez leur porter de l'aide, venez leur en aide. On s'en va parler du budget fédéral qui va être adopté normalement aujourd'hui à la Chambre des communes avec Gabriel Giguère, analyste politique senior de l'Institut économique de Montréal. Gabriel, comment vas-tu?
Ça va très bien, merci.
Gabriel, des crédits d'impôt, des subventions, d'autres formes d'aide aux entreprises sont inclus dans les dépenses en capital, ce qui fait en sorte que quand le gouvernement nous dit « Hey, il y a un gros déficit, mais c'est pas grave, on investit 311 milliards sur 5 ans », c'est pas vrai pantoute, ça?
C'est pas vrai pantoute. C'est ce qu'on a appris la semaine dernière avec le rapport du directeur parlementaire du budget qui nous indique qu'après avoir analysé le budget 2025, ben, le gouvernement Carney a manqué énormément de transparence envers la population canadienne. On a en quelque sorte gonflé là, le montant de dépenses en capital de 94 milliards de dollars. Puis ça, ce que ça veut dire, là, c'est que ça vient jouer avec l'acceptabilité politique, l'acceptabilité sociale, parce qu'ils viennent nous vendre à la population. Inquiétez-vous pas, c'est de la dette productive. On va construire des choses, des routes, des maisons c'est avec ça. Bâtir Maison Canada.
C'est un budget générationnel, Gabriel, générationnel de déficit.
Ben, c'est exactement ça, c'est générationnel de déficit. Là, on comprend là, entre les lignes que c'est comme s'il y avait une proportionnalité entre le montant de l'endettement injustifié et l'enflure verbale du ministre des Finances, François-Philippe Champagne, qui nous dit que c'est toujours générationnel, mais qu'au final, on comprend très, très bien avec le nouveau rapport du directeur parlementaire que c'est problématique, hein, parce qu'on vient dire ici, là, le gouvernement Carney ne respecte aucun critère international, qui ne permet pas les comparaisons entre pays des dépenses en capital, et ce qui fait en sorte que cette subjectivité-là, on envoie des subventions, on envoie des crédits d'impôt qui ne sont pas des dépenses en capital, qui sont des dépenses de fonctionnement. Donc, on manque de transparence et on en manque tellement que le PBO nous dit « Mais là, faites attention, là, mettez sur place un comité indépendant parce qu'il manque de transparence avec la population, le gouvernement actuel. » Donc, on endette. On endette et on endette encore. Là, on projette 300 milliards de dettes de plus, puis ça, ben, va falloir payer l'intérêt. C'est 75 milliards de dollars à payer en 2029-2030. Ça va être nous qui allons payer ça. C'est une augmentation de 30 % même plus que 30 % par rapport à en ce moment. Bref, on est en décalage avec l'ancien gouvernement de Justin Trudeau. Parce qu'on est beaucoup pire.
Je regardais mes notes. Là, construire Maison Canada, ça date d'une couple de mois maintenant. On est là-dedans, donc on s'en tient à son plan. L'affaire, c'est que bien qu'on en construise des maisons au Canada, avec l'inflation, le coût d'en construire une, c'est énorme. Est-ce que bien qu'on ait une accessibilité peut-être plus accrue à travers les prochaines années à l'immobilier ou autre, on va être capable de se les payer avec les déficits puis tout ce qu'on a justement à se mettre de plus sur le chéquier des taxes et impôts?
C'est une bonne question. Moi, je pense que tu vas trop loin. Ils ne seront pas capables de construire ces maisons-là, pour être clair. Bâtir Maison Canada, le gouvernement a beaucoup d'idées, là, mais on l'a vu à travers l'international, Nouvelle-Zélande, Royaume-Uni. Le gouvernement qui essaie de construire des maisons pour sa population, on n'y arrive pas. C'est un bec à l'eau, ça coûte beaucoup plus cher aussi que ce qui est prévu normalement. Donc ça, c'est le réel problème. Après ça, c'est sûr que ça peut augmenter le prix, puis c'est grave parce qu'il y a un manque de main-d'œuvre, il y a une augmentation du coût de construction sur l'ensemble des maisons qui sont construites, que ce soit privé ou pas. Donc, il va y avoir très certainement un enjeu là, c'est pour ça qu'il faut en construire plus, mais c'est aussi pour ça que le gouvernement est mal placé. Et ça fait partie des dépenses en capital, donc le bureau du directeur parlementaire les inclut, mais on a trop rentré de dépenses qui n'en font pas partie. Alors vraiment, on s'inscrit là, on est vraiment à côté de la plaque au sein du gouvernement fédéral, et l'un des éléments qui est extrêmement intéressant dans le rapport, c'est quand même de nous dire que par rapport au dernier exercice budgétaire du gouvernement Trudeau en automne 2024, donc l'année passée, on était supposé avoir la moitié moins de déficit et c'est comme ça pour tous les années. Fait que l'année prochaine, on projetait la moitié moins de déficit que ce qui est projeté avec le nouveau budget. L'année d'après encore, bref, c'est vraiment une explosion des déficits et ça fait en sorte que le directeur du bureau parlementaire dit, ben attention là, moi je sonne la sonnette d'alarme parce qu'on n'est plus dans la même situation qu'on l'était il y a quelques années. Là, on n'a plus de marge de manœuvre si on a un autre problème, si on a quelque chose comme la pandémie. On est déjà là, on utilise toute notre capacité. Fait que là, ça va être très problématique s'il arrive un inattendu, en quelque sorte, au sein du gouvernement fédéral, parce qu'on n'aura plus la marge de manœuvre qu'on avait auparavant. On n'a déjà pas respecté notre premier ancrage fiscal, qui était de revenir à l'équilibre budgétaire sur le plan de l'opérationnel, parce qu'on a vu avec le rapport que c'était faux. Les chiffres qu'on avait vus n'étaient pas les bons chiffres selon les bons critères, puis qu'on n'allait pas réduire aussi le ratio de dette sur PIB. Bref, rien ne va avec ce budget-là du gouvernement Carney.
Hey, clairement, Gabriel, parce que c'est 64,3 milliards de dollars de déficit en moyenne par année pour les 5 prochaines années au Canada. Ce fameux directeur parlementaire du budget, faudrait-tu lui donner plus de pouvoir? Est-ce qu'il pourrait avoir le pouvoir de dire « Hey, wow, minute, Mark Carney, t'es en train de ben trop endetter le Canada, retourne à la table à dessin? »
C'est une bonne question. Je n'aime pas cette idée-là parce que je pense qu'il y a une légitimité qui provient du peuple dans l'élection. C'est-à-dire qu'on décide collectivement d'un gouvernement. Évidemment, je suis pas d'accord avec l'orientation que le gouvernement a pris, mais j'aime pas ce contre-pouvoir-là qui viendrait contredire en quelque sorte l'appui du peuple. Donc ça, j'irai pas jusque-là, mais par contre, je veux mettre l'emphase sur l'accent sur quelque chose de très clair et c'est justement le fait que le directeur du bureau parlementaire du budget, il est incontournable parce qu'il nous permet de voir clair à travers le budget, mais il nous permet aussi de voir clair à travers les différentes propositions de politique. Quand on nous dit on va mettre le centre de la petite enfance à 10$ partout au Canada par le fédéral, non seulement on s'immisce dans les champs de compétences provinciales, mais on a aussi des chiffres qui veulent pas dire grand-chose de la part du gouvernement, qui ont plus intérêt à nous convaincre. À nous donner les vrais chiffres. Tandis que le PBO, lui, peut nous donner ces vrais chiffres-là et j'irais plus loin. Au Québec, on en a besoin parce que des fois, je trouve qu'on s'en fait passer des petites vitres, puis on aurait beaucoup plus de transparence si on avait l'équivalent du directeur du bureau parlementaire au Québec également.
T'as tellement raison. D'ailleurs, il y aura une mise à jour économique la semaine prochaine de la part d'Éric Girard. Donc, c'est clair qu'on va se reparler, Gabriel. D'ici là, porte-toi bien. On adore te jaser à l'émission On en jase sur Boulevard 102.1. Merci pour tes éclaircissement par rapport au budget fédéral qui va passer malheureusement aujourd'hui parce que c'est un jeu politique et c'est un jeu de coulisses, puis il y en a quelques-uns qui vont être absents lors du vote.
Assurément. À bientôt.
Salut Gabriel, merci beaucoup. Gabriel Giguère, analyste politique senior pour l'Institut économique de Montréal. On adore parler économie avec lui. Pascal, après la pause, on va parler à quelqu'un que... et puis je veux parler de ce sujet-là absolument. C'est la docteure Marie-Claude Roy qui est pédiatre, mais surtout présidente de l'Association des pédiatres du Québec. On veut parler avec elle parce que ce qu'on va discuter avec Mme Roy, c'est du fait qu'avec la loi 2, il n'y a pas de priorité donnée aux enfants pour les fameuses pastilles rouges, oranges, jaunes, à savoir c'est qui les patients prioritaires, bien, il n'y a pas de priorité de nos enfants, ce qui fait en sorte qu'on est rendu déjà à 30 % de nouveau-nés qui n'ont pas de médecin de famille. Ça va être pire avec les pastilles. Puis là, je ne veux pas faire trop de drama, Pascal Sévin, mais avec l'histoire que tu nous as racontée à Longueuil, oui, on a besoin d'avoir des médecins qui s'occupent de nos enfants et qui sont alertes justement sur des cas de négligence qu'ils pourraient avoir comme ça. C'est ce qu'on va jaser avec la docteure Marie-Claude
Roy. Manquez pas ça. Je pense que c'est essentiel d'aller parler à ces gens-là actuellement puis comprendre ce qui nous attend.
Vraiment. Et on va terminer l'émission en jasant de sport un peu. Troisième défaite de suite du Canadien à domicile, Pascal.
Oups, là, et ça nécessairement le même sourire ce matin que celui que vous aviez en début de saison.
Blessure à Kirby Dack au pied, fracture, blessure de 4 à 6 semaines. Il y a des partisans dont Max Arouche qui disent « C'est fini, on fera pas les séries. » Est-ce qu'on en est rendu là? 418-971-1021 pour réagir. On fait une courte pause, on revient à l'émission. On en jase sur Boulevard 102.1.
Avec Jeff Fortin et Pascal Cévé.
L'émission d'Angers sur Boulevard 102, 13h36 minutes exactement. Merci d'être avec nous en tant qu'auditeur. À la météo, je le rappelle, c'est 2 degrés aujourd'hui avec des possibilités d'averses de neige, mais on ne parle pas d'accumulation. Donc, Ça devrait être quelques petites brindilles si jamais il y a quelques flocons qui tombent. Mais pour le reste de la semaine, il n'y a pas de neige. C'est 3 degrés nuageux pour mardi, 2 degrés alternance de soleil et nuages pour mercredi et 0 degrés alternance de soleil et nuages pour jeudi. Pascal, avant la pause, on présentait notre prochaine invitée. C'est la docteure Marie-Claude Roy, pédiatre, présidente de l'Association des pédiatres du Québec, parce qu'il y a un cri d'alarme qui a été lancé par les pédiatres. Hier, manifestation devant les 4 principaux hôpitaux pour enfants au Québec, notamment ici au CHU de Québec, l'hôpital situé sur le boulevard Laurier, en face de Place Laurier. Parce que, figure-toi donc qu'il y a 30%, Pascal, des nouveaux-nés qui n'ont pas de médecin de famille. Et là, avec les fameuses pastilles dans la loi 2, là, rouge, orange, jaune...
Pastilles de priorité.
Oui, bien, il y a plein d'enfants qui ne seront pas prioritaires. On ne priorisera pas non plus la prévention. On va plus prioriser donner des soins à des gens qui sont déjà en mauvaise santé. Il me semble que notre système de santé de Nara.
Bien, ça, là, c'est la réflexion que j'avais en fin de semaine. Je pense que celle qui me fait le plus peur, c'est qu'on va traiter et non traiter en prévention. Premièrement, si vous voulez y aller de façon pragmatique, ça va coûter beaucoup plus cher à l'État.
Bien oui.
Il va y avoir encore plus de colmatage à faire.
Tellement.
Parce que quand une maladie est avancée puis que là, tu dois aller dans l'engrenage finalement de la santé, c'est beaucoup plus cher. Puis combien de gens on va perdre? Combien de gens on va perdre qui auraient pu être traités d'avant en prévention?
Mm-hmm.
Sans que ce soit fatal.
Exactement. Et combien d'enfants, justement, vont avoir des problèmes de développement? Je parle de développement moteur, développement du langage. Donc, combien d'enfants on va échapper comme ça dans notre système? C'est vraiment très préoccupant ce qui se passe. Et c'est pour ça qu'on va parler avec la docteure Marie-Claude Roy, pédiatre et présidente de l'Association des pédiatres du Québec. Madame Roy, merci beaucoup d'être disponible pour nous aujourd'hui.
C'est un grand plaisir. Bonjour.
Madame Roy, est-ce qu'on a bien expliqué la situation, c'est-à-dire qu'il y a énormément d'enfants qui n'auront pas les soins de santé appropriés donnés par des pédiatres ou des médecins de famille avec la loi 2 et la fameuse réforme de pastilles de couleur?
Je pense que vous résumez bien effectivement nos préoccupations. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le ministre, dans toute sa réforme, veut améliorer le réseau. On s'entend, il faut qu'il se passe quelque chose avec ce réseau-là de la santé. On est tous d'accord là-dessus. Malheureusement, quand on établit des cibles, quand on établit des priorités, ça devrait être ce qui est le plus aligné avec les besoins de la population. Mais là, ce qu'on constate dans ce projet de loi, dans cette loi 2-là, c'est que les enfants ne sont nulle part. On ne comprend pas la nature particulièrement vulnérables des enfants. On considère les enfants comme des petits adultes en santé, alors que de par leur développement, de par le caractère dynamique de leur évolution, de par le fait qu'ils sont influencés par le milieu dans lequel ils évoluent, hein, que ce soit leur maladie, que ce soit parce qu'un milieu de négligence, que ce soit parce que les conditions de santé de leurs parents ne sont pas optimales. Donc, les enfants sont par définition une population vulnérable. Et ça, cette vulnérabilité-là, elle est absolument pas reconnue par la méthode d'évaluation du ministère. De l'aveu même du ministère, c'est une méthode qui est pas adéquate pour les enfants. Donc là, ce qu'on vient de dire aux médecins de famille, c'est prioriser les rouges, oranges, jaunes. Les verts, bien, si vous avez le temps, vous les verrez. Puis si on veut cocher la case que vous avez atteint vos cibles, bien, il va falloir que vous voyez surtout les rouges et les oranges. Mais là, ce que ça nous dit, c'est que ces enfants-là ne seront plus priorisés pour le suivi et pour la prise en charge de leurs conditions physiques. Oui, vous parliez du développement, mais on a de plus en plus d'enfants qui ont des problèmes d'obésité, d'hypertension, de problèmes musculo-squelettiques, de maladies génétiques héréditaires qui sont dépistées par tous les professionnels de la santé qui les voient avant qu'ils arrivent dans notre bureau en pédiatrie.
Et ça, habituellement, quand vous aviez ce genre de suivi-là, vous pensez qu'on échappait combien d'enfants, même dans un système qui était rodé là, un peu mieux que ce qui s'en vient?
C'est dur de le chiffrer. Je pense qu'il y a eu des belles initiatives en termes de neurodéveloppement, en termes de développement avec ce que le ministre Carman, l'ancien ministre Carman avait développé là, avec Agir tôt. Donc ça, c'est l'enjeu développemental. Il y a déjà une prise de conscience qu'il faut attraper vite ces problématiques-là. Pour chiffrer la quantité d'enfants qu'on perd, ce qu'on sait, c'est qu'actuellement, nous, comme pédiatres, on a énormément de collaboration avec les omnipraticiens. Il y en a qui dédient leur pratique en entier à la périnatalité, les accouchements et le suivi des enfants. Pour nous, c'est des partenaires tellement précieux. Mais là, si on leur dit, à partir de demain, là, vous priorisez ceux qui sont déjà très malades, là, on continue à éteindre des feux, bien, c'est clair que là, actuellement, le ministre n'a pas compris que, comme vous l'avez très bien dit tout à l'heure, tout se joue en amont. tout se joue dans la prévention et devant l'état actuel du réseau et des besoins croissants de la population, si on ne comprend pas que la prévention doit être l'enjeu numéro un, c'est qu'on fait une réforme dans le vide absolument qui va nécessairement donner des mauvais résultats. Donc, c'est pour ça qu'on crie l'alarme. Nous, ce qu'on veut, c'est au-delà du débat sur la rémunération des médecins, nous, on n'est pas là parce que les pastilles, ça nous concerne même pas comme pédiatres, c'est de dire, est-ce qu'on peut s'arrêter, peser sur pause, là, puis arrêter de faire une réforme à tout prix, mais faire une réforme qui a du sens et qui est alignée avec les voix des citoyens, les voix des soignants, puis alignée sur les meilleures pratiques dans le monde, parce que c'est pas le cas actuellement.
Clairement, on voit que vous vous tenez aussi, là, tous et chacun dans vos pratiques. C'est beau à voir que vous êtes capable de parler d'une seule voix. Vous dites que ça ne vous concerne pas, mais vous faites quand même partie de ces strates-là de la médecine qui ont des dommages collatéraux, qui voient leur quotidien professionnel changer aussi, puis qui sont capables d'aller peut-être anticiper la problématique que ça va créer de leur côté. Parce que oui, initialement, on parle des médecins, là, puis de cet engrenage-là, mais ça a tellement d'impact. Ça a des impacts sur les pharmaciens, ça a des impacts sur les psychologues, ça a énormément de dommages collatéraux. Je pense que le fait de prendre la parole aujourd'hui pour essayer d'éclairer les auditeurs, c'est essentiel, là.
Oui, tout à fait. Puis nous, non seulement on veut pas voir arriver des enfants encore plus malades dans notre bureau, mais quand on regarde les cibles qui nous ont été données à nous comme pédiatres, ben on voit la liste d'attente du CRDS, l'urgence. Oui, c'est des choses à suivre, évidemment, mais nous, on le voit dans notre quotidien que les besoins des enfants sont souvent même pas sur ces listes-là. Donc, que le ministre n'en fasse pas une priorité quand on pense au suivi chronique des patients qui sont très malades, des enfants qui sont très malades, ou des listes d'attente pour les évaluations en troubles du spectre de l'autisme. Ça n'apparaît pas dans les listes du ministère, puis pourtant, ces enfants-là sont en grand besoin. Donc, je pense que cette espèce de prise de conscience-là, que les soignants, vous les avez nommés, ils sont nombreux de tous horizons. Les soignants ont des choses à dire pour le ministre. Et cette réforme-là, elle mérite d'être porteuse pour le bien de tous. Parce que si on ne s'occupe pas bien de nos enfants maintenant, ça va faire des adultes encore plus malades. Puis ce qui va rester du système de santé publique, il risque de s'effondrer à ce moment-là. Puis c'est pas ce qu'on souhaite.
Justement, madame, moi, j'ai deux observations que je veux valider avec vous. La première, c'est que je me dis, si on ne fait pas bien les suivis, là, à partir de la naissance jusqu'à l'entrée à l'école, on va nécessairement échapper des diagnostics d'enfants. Donc, ça va être encore plus difficile pour les enseignants qui en ont déjà plein les bras dans leur classe. Est-ce que je me trompe?
Tout à fait. Tout à fait, hein, parce que la santé, on le dit pas assez souvent, la santé, c'est pas que le ministère de la Santé. La santé, c'est tous les déterminants sociaux de la santé. C'est l'éducation, c'est les services sociaux, c'est les supports à la famille, c'est le réseau des CPE. C'est tout ça, la santé des enfants et des futurs citoyens. Donc, il faut avoir une vision beaucoup plus ouverte de la santé. Nous, on est très, très déçus de voir que, face à notre cri du cœur, la voix des enfants qu'on a voulu porter, la réaction du ministre, ça a été de dire, ben dites aux pédiatres qu'ils devraient les avoir leur supplément de rémunération collective. Ils n'ont pas besoin de s'inquiéter. Hier, dans les quatre manifestations, il n'y a pas un pédiatre qui a parlé de sa rémunération. On a crié haut et fort qu'il fallait tenir compte des enfants dans cette réforme-là. Et les réponses du ministère sont fort décevantes parce qu'on comprend qu'ils n'ont pas saisi l'urgence de bien investir pour la santé des enfants dans cette réforme-là qu'on veut efficace et qu'on souhaite tous collectivement. Donc, c'est pas vrai qu'on veut que rien change. Au contraire, on veut que les changements, tant qu'à les faire, là, tant qu'à tout le monde ensemble comme société s'embarquer dans un changement, on veut que ce soit des changements efficaces.
Mon deuxième constat, c'est, vous parliez de l'obésité des enfants tout à l'heure, on veut développer les saines habitudes de vie au Québec, on travaille fort là-dessus, on veut diminuer le temps écran, mais si on n'est pas capable de faire les suivis avec nos enfants, d'autant plus nos enfants qui ont un problème d'obésité, on ne sera jamais capable de venir à bout de cette courbe-là, donc on ne sera jamais capable d'améliorer la situation de notre jeunesse.
Vous avez tout à fait raison. C'est des problématiques qu'on peut voir poindre rapidement et les spécialistes de première ligne qui sont outillés pour faire ce dépistage-là et cet accompagnement-là auprès des familles, ils peuvent changer la trajectoire d'un enfant puis éviter justement qu'il se ramasse dans le bureau du pédiatre beaucoup plus malade que ce qu'il aurait été autrement. Donc, c'est dès les premières années de vie qu'on doit agir de façon efficace. Les enfants ne peuvent pas être des pastilles vertes. Ils sont vulnérables. C'est tellement important de le reconnaître.
Est-ce que on a l'impression que le système de santé tel qu'on connaît actuellement réussira un jour à changer pour le mieux? Parce que bien avant cette réforme-là, il y avait des choses qui étaient complexes, il y avait certainement des choses à revoir aussi. Comment vous voyez les choses de votre côté?
J'ai l'impression qu'en voulant trop faire rapidement les choses avec une seule partie de la problématique sous les yeux, le ministre est en train de faire une gaffe. Je pense qu'on a besoin d'états généraux, on a besoin d'une très vaste consultation populaire pour dire on en est où dans notre système de santé, où sont les besoins de la population, puis qu'est-ce qu'on est encore capable d'offrir. Parce que des services, la technologie, les moyens, on peut toujours faire plus, mais on a une population qui est de plus en plus malade, qui vit de plus en plus longtemps aussi avec des problématiques qu'on soigne mieux qu'avant, mais tout ça génère énormément de besoins. Puis là, il faut qu'on fasse un constat et qu'on dise qu'est-ce qu'on est capable de s'offrir comme société, qu'est-ce qu'on peut faire pour être capable encore d'avoir ce système de santé-là public qui a tellement fait notre fierté, mais qu'est-ce qu'on fait comme choix aussi globalement? Parce que la courbe, c'est mathématique. Hein? Si les besoins explosent puis les ressources augmentent pas, ben il y aura toujours un surplus de besoins par rapport aux services qu'on peut offrir dans le réseau de la santé. Donc, je pense qu'il faut qu'il y ait une réflexion collective qui va bien au-delà d'une loi qui porte sur la rémunération des médecins. Là, je pense que c'est à courte vue, on règle absolument rien. Il faut qu'on se pose certaines questions que le ministre a mis sur la table, mais il faut que ce soit dans une réflexion beaucoup plus globale. Puis il faut que les voix citoyennes soient entendues, pas juste les voix des médecins ou les voix du ministre. Hein. Je pense que ça nous concerne tous comme citoyens, ce réseau de la santé-là.
Je termine l'entrevue avec cette question-ci, Mme Roy. Vous avez parlé tout à l'heure de ce qui se fait ailleurs dans le monde. Ça serait quoi la bonne pratique à implanter au Québec pour s'assurer qu'on prend soin de nos enfants, qu'on travaille en prévention puis qu'on va arrêter d'investir des milliards de dollars dans des soins de santé chez nos adultes plus tard?
Bien, je pense que ce qui ressort là, dans les bonnes pratiques un peu partout, c'est d'abord la collaboration interdisciplinaire, donc entre les différents professionnels. C'est sûr qu'il faut arrêter de centrer ça autour du médical seulement. Je pense que les soins de santé sont étalés sur plusieurs professionnels qui ont chacun leur expertise. Je pense aussi que au-delà des cibles, le ministre dit que les cibles ailleurs dans le monde, ça a fait ses preuves. Ce sont pas des cibles mathématiques ou comptables. Ce sont des cibles qualitatives, des cibles orientées sur la santé populationnelle et sur l'impact sur cette santé-là populationnelle. Donc, je pense que c'est une multitude d'exemples. On ne peut pas prendre juste une partie de ce qui se fait bien dans le monde. Il faut vraiment avoir une vision beaucoup plus large.
Marie-Claude Roy est pédiatre et présidente de l'Association des pédiatres du Québec. Merci beaucoup pour votre participation à l'émission On en jase ce midi. Au plaisir de se reparler. C'était vraiment une conversation intéressante.
Un grand plaisir. Au revoir.
Merci. Au revoir. C'était Marie-Claude Roy, les pédiatres qui ont sonné l'alarme hier. Pascal, je pense que c'est une alarme qui méritait d'être sonnée. Moi, quand je vois ça, 30 % des nouveaux-nés qui n'ont pas de médecin de famille, qui n'auront pas d'accompagnement. Il y en a plusieurs là-dedans qui se retrouvent malheureusement dans des familles dysfonctionnelles.
Ouais.
Et là, bon, on court un risque là, justement pour la santé de nos enfants. Fait que oui, quand ils naissent, ils n'ont pas de problème, ils sont pastilles vertes. Mais il me semble que nos enfants devraient être des pastilles oranges ou des pastilles rouge. Il faut prendre soin de notre jeunesse. Je me trompe-tu?
Ben non, tu te trompes pas. Après, tu sais, moi, je pense tout le temps aux impacts que ça va avoir également pour les enfants dans les milieux défavorisés, pour les enfants aussi dans les milieux scolaires. Tu sais, c'est déjà difficile en éducation pour plusieurs raisons. S'il y a des diagnostics de motricité qui sont pas très intéressants, si on voit une décrépitude, en fait, chez nos enfants de suivis médicaux qui ont toujours été très essentiels puis présents dans les vies familiales, dans les foyers québécois. J'ai bien peur de ça. Je sens qu'on n'a pas encore toutes les clés entre nos mains non plus. Puis je sens qu'on souffre un peu aussi de ce silence-là des médecins qui sont fâchés avec raison.
Oui.
Mais qui ferment un peu la porte aux prochaines négociations. On fait quoi avec ça? Il va falloir se sortir de cette impasse-là aussi en ce moment.
Mais tu as raison, puis ça rejoint le commentaire de Martin qui dit « J'entends souvent les médecins dire « Donnez les moyens aux médecins d'améliorer le système. J'aimerais entendre c'est quoi ces moyens-là. » Puis c'est vrai qu'on est plus dans une rhétorique présentement de bataille à savoir qui est le moins pire entre le gouvernement et les médecins. Chose certaine, ça m'a fait penser à notre conversation qu'on a eue avec la docteure Emmanuelle Britton en Outaouais, avec Martin Forgue, un dirigeant qui avait été tassé, quand il parlait de créer des cliniques où on aurait tous les services, on aurait tous les services. Ça me fait penser à ça, la discussion avec Marc-Claude Roy, quand elle disait c'est un ensemble, c'est un amalgame. Je pense que ça serait un modèle qu'on pourrait implanter en projet pilote à des endroits comme il avait été pensé justement avant cette fameuse loi 2.
Ça semble très intéressant. Puis c'est à se demander aussi pourquoi on n'essayait pas des projets pilotes, puis après ça, on faisait un post-mortem. C'est-tu parce que ça coûtait trop cher, c'était trop complexe, mais en même temps, les essais avant l'implantation, c'est important. C'est au même titre que la SAQ Click. Je veux dire, il fallait essayer ce qui allait se passer avant de l'implanter, puis en plus, en fermant complètement le site web et tout ça. Mais on a de grosses difficultés au Québec. J'ai l'impression qu'on se met tous des bûches là, en avant de tous et chacun. Puis ce projet pilote-là, j'aurais trouvé ça intéressant. Puis en même temps, ce qu'on commence à voir dans les médias, c'est qu'il y a des cliniques qui étaient plus indépendantes, mais avec des médecins qui pratiquaient au public, qui ferment parce que c'est rendu trop cher. Puis avec les nouvelles façons de les rémunérer, bien, on n'est pas capable de subvenir aux factures initiales.
Donc là, on se tire dans le pied parce qu'on ferme des solutions de première ligne. On va renvoyer ce monde-là dans les urgences.
Oui.
Puis on le sait, les urgences débordent déjà. Donc, ça va être une problématique, certainement. Parlant de problème, Pascal, le Canadien a vécu une semaine d'enfer.
Retour à Lindholm. Lindholm en déplacement. Vers le centre, la rondelle revient à Pastrnak. Pastrnak descend. La rondelle pour Zaccon. On va mettre devant le tir. Victor Arvidsson. Et c'est son 200e en carrière dans la...
Ça, c'était le but de Victor Arvidsson, Pascal, le troisième des Bruins. Ça donnait les devants 3-1 aux Bruins de Boston qui l'ont finalement porté 3-2 contre le Canadien. Si bien que, Pascal, on se parle depuis le début de l'année, Canadien trône au sommet de la division
Atlantique. Vous étiez sûr de faire les séries, je m'excuse. Puis
tout le monde s'est dit, ça va bien à Montréal. Ouais. Mes enfants ont leur gilet du Canadien. Ouhou, père, on aime le Canadien. Mais là, le Canadien se retrouve à un petit point d'être exclu des séries. Pascal CV, ça va pas bien. Match ce soir, 19h30 contre les Blue Jackets de Columbus.
C'est la dernière chance?
Ben, c'est pas la dernière chance parce que c'est une longue saison de 82 matchs. Mais là, Kirby Dack est blessé.
Oups.
Pied fracturé, 4 à 6 semaines. Alex Newhook s'est blessé la semaine dernière contre les Stars. On le reverra sûrement pas cette année. C'est deux joueurs de centre du Canadien. Caden Goulet, un excellent défenseur, est blessé encore de 8 à 10 semaines. Les gardiens de but arrêtent à rien. Ah bon, pas bien, Pascal.
Tu ne décris pas un scénario qui est très gagnant.
Non.
Si on perd, il arrive quoi, là?
Bien là, si le Canadien perd, ils vont continuer à chuter au classement. Et tu sais, c'est le Thanksgiving américain qui approche dans une semaine et demie. Et dans la Ligue nationale, les équipes qui sont dans les séries au Thanksgiving américain, à 82% des chances, réussissent à garder leur momentum et faire les séries. Fait que si tu n'es pas dans les séries au Thanksgiving américain, ça veut dire que tu as à peu près une chance sur 5 d'y faire. Alors là, le temps presse pour le Canadien, Pascal. Je te le dis.
Mais les auditeurs, ils ne croient plus. Là. Ils pensent qu'il y a trop de blessés. Puis qu'effectivement, il y a peut-être aussi une complexité de joueurs qui manquent trop d'éléments. Puis qu'on est vraiment en reconstruction.
Ouais.
Pour les auditeurs, c'est pas facile.
Non, c'est vraiment pas facile. Sinon, les Alouettes de Montréal qui ont perdu hier, Pascal, en finale de la Coupe Grey, 25 à 17. Une défaite crève-cœur pour les moineaux, comme on les appelle. Donc, c'est une défaite à la Coupe Grey. Victoire des Rough Riders de la Saskatchewan. Dans la NFL ce soir, c'est les Cowboys de Dallas qui visitent les Raiders de Las Vegas. Deux équipes qui ont des difficultés depuis le début de la saison, surtout les Raiders à 2 victoires et 7 revers. Dans les bons matchs qu'il y a eu hier, Pascal, crois-le, crois-le pas, les Chiefs de Kansas City sont à 5 victoires, 5 défaites.
50-50.
Quand on parle d'être exclus des séries, ils sont exclus des séries à l'heure actuelle.
Ouais. Il y avait-il des victoires qui étaient positives, dans le sens des victoires qui étaient contre des équipes fortes?
Oui, quand même. Mais là, c'est les Broncos de Denver qui les ont battus hier, 22-19. Les Broncos de Denver ont 8 victoires consécutives. Ils sont à 9 victoires et 2 revers.
T'attendais-tu à ça, toi, au début de
saison? Non, pas du tout. On savait que c'était une bonne équipe défensive, mais on pensait pas qu'ils performeraient de la sorte. C'est 11 victoires de suite à domicile. C'est la plus longue marque présentement dans la NFL. Alors, ça va très bien pour les Broncos de Denver. Parlant de très bien aller, les Eagles de Philadelphie qui ont gagné hier soir également. 16-9 contre les Lions de Détroit. 8 victoires et 2 revers pour les champions du Super Bowl. Donc, ça va bien de ce côté-là. Dans l'actualité, Pascal, si tu avais une ou deux nouvelles à nous résumer rapidement avant qu'on quitte.
Ben c'est sûr qu'aujourd'hui, c'est une bonne journée pour le fédéral. Le vote sur le budget, hein, c'est pour la survie de son gouvernement, du gouvernement de Mark Carney. On a doublé le déficit pour relancer l'économie et on joue avec ce vote, la survie du gouvernement minoritaire. Sinon, toujours dans l'actualité aujourd'hui, ben, il y a des petits faits divers ici et là, mais il y en a un gros qui attire l'attention du côté de Longueuil. C'est un bébé qui est arrivé avec 50 fractures. La mère a avoué ne pas avoir fait ce qu'il fallait pour que ça n'arrive pas. Elle a attendu 4 jours avant de le transporter à l'hôpital pour une jambe fracturée, donc jambe cassée. 5 ans avant que la mère indigne avoue à une agente d'infiltration qu'elle est coupable de ne pas avoir fait ce qu'il fallait pour pas que ça arrive. La mère s'est dit épuisée. Et on parle d'une grossesse qui n'avait pas été planifiée en 2018. Elle ne connaissait pas le père. Elle le connaît maintenant depuis quelques semaines. Les conflits qui ont rapidement été devenus récurrents, en fait, dans le quotidien. Relation qui s'est envenimée après la naissance de la fillette à l'automne. C'est épouvantable de voir ce qui peut se passer dans les hôpitaux près de chez nous. Et c'est encore une histoire de détresse, hein, de détresse psychologique. Ça sera à suivre, mais assurément, elle n'allait pas bien. Plusieurs ecchymoses et tout ça pour le nourrisson. On cache l'identité de tout le monde là-dedans pour ne pas nuire à la victime.
Clairement. C'est le retour de Gravel qui suit avec Denis Véro. Et je crois que c'est-tu Gab ou Nathan qui remplace... Qui remplace Audrey, je ne le sais pas. Vous le découvrirez en même temps que nous dès que les micros s'ouvriront. Nous, on est de retour demain à midi pour
surprise
l'émission
du chef.
En jase. Exactement. Oui, le choix du chef. Hein,
oui. Mais même pas le choix, surprise
ouais,
du chef.
Oui, la surprise du chef, exactement. Merci d'être à l'écoute de Boulevard 102. On se parle demain midi pour l'émission Sans jase. Bye-bye, guys.
Salut.